Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 juin 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir, bonsoir Victoria, comment c'est-il que ça va?
Je résiste.
Très bien. Marquis?
Je résiste
à tout. Il n'a pas l'air du tout.
À tout.
Goff?
Bonsoir Serge de Bekech, bonsoir à nos auditeurs innombrables dans le monde entier et au-delà.
Il faut pas le couper alors. Il est pro, laissez-le.
Moi coupé.
Bat ton chemin camarade, Goffman. 40 000 prostituées devraient débarquer sur le territoire allemand avec supporters attendus pour la Coupe du Monde de football en 2006.
J'ai toujours dit. Les Jeux Olympiques à Paris, qu'est-ce qu'on aura?
Ah ben voilà, c'est ça. Pour faciliter cette activité, la ville de Dortmund a prévu d'installer des cabanes en bois. La cabane bambou. L'avantage est qu'à côté de la chambre, un garage est prévu pour les voitures du client. Dans quel monde on vit? Mais dans quel monde on vit? Delanoé, qu'est-ce que t'as prévu? Bon, le garage, on sait, mais pour le reste.
Le garage à quoi?
Pas automobile. Voilà. Non, mais attendez, ils sont fous. Mais vraiment, ce monde est un monde de fous. Je vous le dis comme je le pense.
Et de folles, accessoirement aussi.
Je souhaite vous informer. Non, ça, on lira. Tiens, c'est Victoria qui va le lire tout à l'heure. Victoria, vous avez gagné le droit de lire ces messages. Si on dit qu'on lit pas les messages, c'est vrai qu'on les lit peu. Mais le problème, j'ai déjà expliqué, c'est que souvent les messages arrivent, les messageuses arrivent, alors que le sujet a déjà changé.
Ça fait rien.
Parfois l'auditeur aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est plus souvent les... Bien, alors comme prévu, comme promis, la semaine dernière, j'ai squatté... 12 lettres, 12 messages m'ont arrivé en disant sur Radio Courtoisie.
On ne dit pas squatter.
La radio de la francophonie, on ne dit pas squatter. Donc j'ai squatté l'émission de mon camarade et néanmoins ami Daniel Amiche.
Toujours ami. Du mérite.
C'est l'un des rares qui reste.
Au moins deux.
Ouf. On va parler pour Goffman. Et j'avais prévenu nos chers auditeurs et bien-aimés auditeurs et cotisants. Non, chers auditeurs et bien-aimés.
Oh
bravo, professeur, c'est très bien.
Tournée générale.
Excusez-nous.
Alors, c'était le téléphone du professeur Féjean. Merci,
professeur d'électronique, je suppose.
Non, c'est l'ingénieur qui est électronicien. Lui, il est simplement professeur.
Maîtrise mal la chose, apparemment.
Ouais. Heureusement qu'il est meilleur en médecine qu'en téléphonie.
L'ingénieur, il a apporté un kilo de plastique et il va nous expliquer comment se prémunir des dangers du plastique.
Non, attendez, rigolez pas, parce que c'est là, vous allez voir, on va aller prendre une leçon, mon vieux, qui va vous laisser pantois. Qu'est-ce que j'étais en train de dire donc comme bêtise
Que vous aviez squatté.
Oui, alors donc j'avais prévenu la semaine dernière que nous ferions passer à ceux qui le désiraient un test de discernement des inférences. Alors il paraît que le mot inférence n'est pas dans le dictionnaire. Mais il y a tellement de mots qui sont pas. D'abord, ça dépend quel dictionnaire. Ouais. Et puis en plus, il y a tellement de mots qui sont pas dans le dictionnaire que s'il fallait se borner au dictionnaire de l'Académie, vu qu'ils en sont, je crois, au D maintenant.
Il joue au dé.
Oui. Eh bien, on serait bien embarrassé s'il fallait n'utiliser que les mots du dictionnaire.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'inférence?
Eh bien, curieusement, l'inférence, c'est quelque chose que l'on infère de quelque chose. Par exemple, il fait chaud.
Oh,
il fait chaud. J'en infère que la température est élevée. Ça, c'est une inférence. Voilà. Donc, j'avais prévenu qu'on ferait ça et qu'on ferait découvrir à nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore découverte. Ce qu'on appelle la neurosémantique ou la sémantique générale ou le discernement des inférences par un test qui s'appelle justement un test de non-discernement des inférences puisque c'est un test qui met en lumière le fait que on a tendance à projeter sur ce qu'on entend, ses a priori, ses convictions, c'est les choses qu'on croit savoir, et donc on n'écoute pas ce que dit son interlocuteur, mais à peine commence-t-il à parler, qu'on commence à dire « Oh là là, j'ai compris, arrêtons là ». C'est comme ça qu'on écoute les discours politiques et qu'on finit par voter Chirac. C'est comme ça qu'on lit les articles des... Pourquoi ça vous gêne? Vous n'avez pas voté Chirac?
Il y a une émission qui passe un certain jour de la semaine, on appelle ça le point de vue. C'est-à-dire que vous avez votre point de vue, vous écoutez pas l'autre, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça, non-discernement des inférences, vous êtes puni, Marquis.
Ah ben j'ai rien compris.
Au coin.
Il faudra que l'intellectuel de service fasse trois colonnes pour m'expliquer.
Fine allusion au dernier numéro du Libre Journal. Tous nos abonnés apprécient.
Je vous remercie de votre confiance.
Est-ce que je peux continuer ou est-ce que vous voulez continuer?
Non, mais faites comme chez vous.
Non, c'est votre émission.
On va continuer nos deux discussions
voilà.
Particulières.
De toute façon, il y a quelqu'un qui continuera, soit moi à parler, soit vous à m'interrompre. Mais Et alors donc, je vais demander au professeur Féjean qui m'a fait redécouvrir la sémantique générale que j'avais entendu parler d'eux quand j'étais petit garçon. Enfin, jeune homme. J'avais
Qu'est-ce
lu
que
le...
c'est, monsieur, la sémantique générale?
Je suis en train d'expliquer, Victoria.
Ah, Continuons, alors, ne vous laissez pas
voilà.
distraire.
Laissez-le parler.
Quand j'étais gamin, j'ai lu un livre qui s'appelait Le Monde des Arts, de mon camarade Van Vogt, qui est un livre formidable et qui expose ce qu'est la sémantique générale. Si vous lisiez de la science-fiction au lieu de lire des classiques français, vous le sauriez, Victoria. Voilà.
Mais nous, on n'était pas des surdoués, nous.
C'est mieux Molière.
Non, ça, j'avais remarqué, puis ça n'a pas changé depuis. Alors, donc... on a décidé de faire une émission pour vous faire découvrir ce sujet, non pas par plaisir de faire les malins, mais tout simplement parce que c'est vraiment un excellent moyen d'éviter d'être trompé par le discours politique, par le discours marchand, par le discours journalistique et tous ces discours qui passent, enfin dont l'objectif essentiel est de vous rouler dans la farine, de vous passer dans la friture et de vous becquer après. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut donner un très bon exemple de ce qu'est la sémantique générale, ou plutôt le non-discernement des inférences. On peut donner quelques exemples. Il y a un exemple que tout le monde connaît, c'est le fameux exemple de la publicité pour le loto, qui nous dit « Tous les gagnants ont joué au loto ». Bon. Ce qui est une évidence. C'est vrai, tous les gagnants ont joué, forcément. Seulement, la structure mentale de l'auditeur est telle qu'il comprend ce qu'il attend. C'est-à-dire, il attend qu'on lui dise un jour « Tous les joueurs gagnent ». Parce que c'est le rêve. Et donc, quand on lui dit « Tous les gagnants ont joué », il se dit « Donc, c'est que tous les joueurs gagnent ». Et il joue.
Il est drôlement bête.
Il est bête.
Oui, on est tous aussi bêtes, rassurez-vous. Parce que si vous alliez, comme moi, dans les fêtes foraines, vous verriez que... Dans les fêtes foraines, les gars qui vendent les petits billets roulés disent exactement ça. Exactement. Et ça marche. Et ils ont des centaines et des centaines de clients. Il y a un autre exemple, c'est une histoire qui fait le bonheur du professeur Féjean, qui est l'histoire de ce couple de campeurs qui s'installe pour la nuit dans une clairière. Et au milieu de la nuit, la dame réveille son mari en disant « Regarde le ciel ». Alors il regarde le ciel, elle lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois le firmament et des myriades d'étoiles ». Elle lui dit « Qu'est-ce que ça t'inspire ?» Sur le plan poétique, ça m'inspire effectivement une vision de la splendeur du monde. Oui. Sur le plan astronomique, ça m'inspire une réflexion sur l'insondable de l'univers, le fait que nous sommes à l'heure actuelle dans le signe du cancer. Sur le plan métaphysique, ça m'inspire la réflexion que Dieu est tout puissant. Sur le plan météorologique, ça m'inspire la réflexion que il fait beau et que demain il fera probablement très beau. Ça t'embouche un coin, ce que je te dis. Les violences qui m'embouchent un coin, c'est que tu sois assez bête pour pas avoir inféré qu'on nous a piqué la tente. Voilà. Donc la sémantique générale, c'est un truc qui vous permet avant tout de dire merde, on nous a piqué la tente.
Sans que je vais finir.
Après, vous pouvez.
Sans que je vais finir par comprendre. Quand même.
Voilà. Et après, vous pouvez. Donc, en gros, si vous voulez, quand vous écoutez un message à la radio, il faut la première question à vous poser, c'est qui a piqué la tente. Et je ne parle pas de Delanoë, bien entendu.
Ça dépend quelle émission.
Alors, on avait proposé cette idée. J'avais demandé aux auditeurs, j'avais dit aux auditeurs, si vous voulez recevoir le texte dont j'ai donné la lecture dans l'émission de la semaine dernière, vous m'envoyez soit une enveloppe timbrée, ce que certains n'ont pas fait, et à leur grande surprise, ils n'auront pas eu de réponse, parce que voyez-vous, mes moyens ne me permettent pas de dépenser une enveloppe et un timbre chaque fois qu'on me le demande, c'est tout simplement impossible financièrement. Tous ceux qui ont envoyé une enveloppe timbrée, je leur ai répondu. Alors, si les lettres ne sont pas arrivées, si quelques lettres ne sont pas arrivées, elles arriveront demain ou après-demain, j'en suis désolé, mais ça, il faut voir avec Monsieur PTT ou Madame PTT, je sais pas.
Avec Monsieur Besancenot.
Monsieur Besancenot. Mais cassez donc la gueule à Besancenot, ça lui donnera des couleurs. Tous ceux qui m'ont envoyé des mails ont reçu la réponse. Ceux qui m'ont téléphoné au journal, je leur ai gentiment, je le dis comme je le pense, dicter le texte, mais il n'y a pas eu beaucoup, je veux dire. Alors, ce texte, il est très court, donc je vais le relire là, très calmement, et on va ensuite, si vous avez je vous laisse le temps d'aller chercher un crayon.
Tiens, pendant ce temps, je vais chercher un petit message.
Un papier. Attendez, je termine, parce que si vous êtes égyptien, vous allez chercher une calame et un part, un papyrus. Et si vous en êtes encore à l'époque de la pierre gravée,
plaque de marbre et burin.
Voilà.
Allez-y. Le ferré, nous dit cette auditrice, existe dans le littré et signifie tirer une conséquence de quelque proposition que ce. Oh là là. Tirer une conséquence de quelque proposition de quelque fait. J'infère de. Exemple, j'infère de ce compte. Eh, oh bon.
Non, mais c'est. Attendez.
C'est de corvée de je ne sais quoi demain matin, ça. Tirer une conséquence de quelque proposition de quelque fait. Exemple, j'infère de ce compte. Ou peut-on avoir le texte dont vous venez de parler. Eh ben, vous écoutez, on va vous le dicter.
Voilà, on va vous le dicter. Alors, en fait, c'est pas le mot inféré qui était mis en doute. L'existence du mot inféré qui était mis en doute parce que l'existence ça est avéré. Ce qui était mis en doute, c'était l'inférence, qui est une espèce d'extension du verbe inférer. Quand on infère, on commet des inférences.
Oui, et là, une autre auditrice nous dit, dans le dico de la langue française encyclopédique, et des noms propres, raisonnement consistant à admettre une proposition.
Inférence alors.
Oui. Oui. Voilà. Consistant à admettre une proposition. Du fait de sa liaison avec d'autres propositions antérieurement admises. 1606. Voilà.
Alors, le professeur dit non et l'ingénieur dit oui. C'est-à-dire, Féjean dit non et Saucet dit oui. Mais enfin, bon, on va pas rentrer dans ce détail-là tout de suite. On va d'abord dicter le texte. Il est très court, je vous rassure. Et ensuite, je vous poserai des questions. Alors, pour répondre aux questions, c'est très facile. Il y a trois solutions. Ou ce que je dis, vous considérez que c'est vrai. Vous considérez que c'est vrai?
Oui, il faut quand même, il y a une procédure à respecter.
Oui.
Je dis bonjour à tous nos éditeurs, d'ailleurs, en passant. Il faut répondre au maximum oui ou non. Et si on ne sait pas, eh bien, on met point d'interrogation. Voilà. Mais dans tous les cas, on ne revient pas sur une question qui a été, sur laquelle on a
non,
répondu.
Non, mais c'est tellement compliqué qu'ils n'auront pas le temps de revenir une fois qu'ils seront embarqués dans le truc.
Ah non, alors, je m'empresse de dire, parce que Serge essaye de compliquer le test de discernement des inférences. En fait, c'est un texte qui est très très simple. Il s'agit d'un flash d'information qui est pris dans l'actualité, qui s'appelle Le Président est mort. Il ne s'agit pas d'une anticipation ni d'un désir. Hein. C'est un fait conjoncturel.
Non, mais ça n'empêche pas non plus.
Bon, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, sur ce flash d'information, eh bien, on pose une vingtaine de questions. Voilà. Et vous verrez ce qu'on peut tirer de ces questions. Attendez-vous à des grosses surprises.
Alors, vous répondez vrai, selon votre opinion, ce que je dis, ce que je vais lire, c'est vrai, faux ou vous ne savez pas. Hein. Bon. Et si vous ne savez pas, vous répondez ça, vous ne savez pas. Et s'il se trouve qu'à cette question, on ne peut pas connaître raisonnablement la réponse en appliquant les règles du discernement des inférences, eh bien, vous gagnez un point. C'est-à-dire, même si vous ne savez pas, vous gagnez un point. C'est quand même un jeu formidable. Alors, je lis le texte. Il est court, je vous rassure. Le président est mort. Les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher. Point. La police a arrêté deux personnes armées. Point. Non, mais je copie sur le marquis qui écrit... qui
non, calligraphe. Il est en train de préparer.
Ah, je crois qu'il écrit... c'est incroyable. Comme que, voilà, j'ai fait une inférence. Le docteur AZ, A.Z. a déclaré que les dégâts avait été trop important, virgule, et que rien n'aurait pu sauver la vie du président, virgule, précisant que tout avait été tenté, point. Je répète.
Vous invitez nos auditeurs, j'ai pas compris. Vous dictez là,
oui,
les auditeurs.
Je crois que s'ils sont pas compris, je dicte s'ils ont pas l'oreille très fine, parce que vraiment c'est.
Moi j'avais pas compris. Donc il faut noter.
Ouais,
si
oui,
dicter.
Oui, oui. Notez-le. Si Goffman n'a pas compris, ça va très très mal, les enfants. La chaleur elle est lourde.
Allez, papier crayon, dépêchez-vous.
Plus doucement.
Allez.
Plus doucement, ça.
Donc le président est mort. Les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher.
Attends.
Enfin, on va pas passer la soirée à ça, non.
Point.
Mais si, c'est passionnant.
Ça va. Les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher. Point. La police a arrêté deux personnes armées. Point. Le docteur A.Z. a déclaré que les dégâts avaient été trop importants. Virgule. Et que rien n'aurait pu sauver la vie du président, virgule, précisant que tout avait été tenté, point. Vous êtes arrivé, Marqué ?
Oui, oui.
Pour quelqu'un qui n'a même pas son certif, je débrouille bien. Hein. Ça y est, tout le monde est prêt ? Alors maintenant, première question.
Attends, c'est...
Allez-y, camarade.
Oui, alors j'interviens parce que pour faciliter les choses,
je doute que ça soit faudrait, le final, mais enfin, je
il faudrait simplement faire trois colonnes. Et dans ces trois colonnes, on regarde des questions. Vous marquez vrai, faux ou point d'interrogation.
Voilà. Alors, question 1. Alors, je lis la question et vous dites, vous répondez c'est vrai, c'est faux ou je ne sais pas. C'est tout, hein. C'est-à-dire V, F ou point d'interrogation. Première question. Première affirmation, plus exactement. Nous savons que le président a été tué. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous ne savez pas?
Je m'empresse de dire aussi, pour ne pas inquiéter nos auditeurs, il n'y a aucun piège là-dedans. Il s'agit d'un flash d'information.
Personne ne sera puni.
Voilà.
Ça n'augmentera pas vos impôts et ça réduira pas les miens.
Au cou et les mains sur la tête.
Première question. Nous savons que le président a été tué. Vrai, faux, je ne sais pas. Deuxième question. Les gardes du corps ont essayé d'empêcher la mort du président. Vrai, faux, je ne sais pas. Troisième question. Rien n'aurait pu sauver le président. C'est pas question, c'est affirmation. Hein. Encore une fois, je peux excuser cette erreur. Quatrième affirmation. Nous savons que le président a succombé à ses blessures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on ne sait pas? Cinquième affirmation. Les blessures du président étaient importantes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on ne sait pas? Sixième question. Sixième affirmation. Les médecins ont tenté de sauver la vie du président. Septième affirmation, nous savons que le président a été victime d'un attentat. Huitième affirmation. Le docteur A.Z. a examiné le président. Neuvième affirmation. Le docteur A.Z. a fait une déclaration. Dixième affirmation. Le président a reçu des soins. Onzième. Les hommes arrêtés étaient des gardes du corps. Douzième affirmation, les hommes arrêtés étaient armés. Treizième affirmation, le docteur A.Z. pourrait être parmi les hommes arrêtés. Quatorzième affirmation, tout avait été tenté pour sauver la vie du président. Quinzième affirmation, deux hommes ont été arrêtés. Seizième, nous savons que le président a été exécuté. Dix-septième, le président avait causé des dégâts trop importants pour que sa vie puisse être sauvée. 18. Le docteur A.Z. est un homme. 19. Le docteur A.Z. est membre du tribunal qui a jugé le président. 20e affirmation. Nous ne savons pas si le président est mort dans les bras de sa maîtresse. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse pas réfléchir d'ailleurs parce que ça sert plus à rien maintenant que c'est fini. Je vais vous donner les bonnes réponses. Vous avez répondu, Goffman ?
J'ai tout bon.
Marquis, vous avez répondu ?
Ouais, j'ai tenté.
Bon. Alors je vais vous demander, messieurs, la première question, à savoir, nous savons que le président a été tué. Qu'a répondu le marquis ?
Oui.
Qu'a répondu Goffman ?
Faux.
Moi aussi, faux.
C'est bien, marqué. Un point contre vous, c'est faux. Nous savons que le président est mort, nous ne savons pas qu'il a été tué, évidemment. Il est peut-être mort de...
De crise cardiaque.
De crise cardiaque, de saisissement, d'apprenant qu'il avait été tué. Deuxième affirmation. Les gardes du corps ont essayé d'empêcher la mort du président. Vrai, faux, on ne sait pas. Marqué.
Vrai.
Victoria.
On n'en sait rien.
Goffman.
Faux.
Eh bien, on n'en sait rien. Nous ne savons pas s'ils ont tenté d'empêcher ou pas.
Bah évidemment, c'est pas.
Troisième affirmation. Rien n'aurait pu sauver le président. Et c'est là que vous allez voir la finesse du truc. Troisième affirmation. Vous avez remarqué que la première affirmation, c'est nous savons que le président a été tué. Or, on ne le sait pas. Bon. La troisième affirmation. Rien n'aurait pu sauver le président. Alors. Marquis.
Vrai.
Victoria. Nous savons. La troisième question. Nous savons que rien n'aurait pu sauver le président. Non, pardon. Rien n'aurait pu sauver le président.
Bah, on n'en sait rien.
Voilà. Et vous?
On n'en sait rien.
Voilà. On n'en sait rien. Nous savons uniquement que c'est ce que le docteur AZ a dit. Ce qui est marrant, c'est quand même incroyable. C'est le plus ténueux d'entre nous tous. Oui. Mais si vous êtes ténu, ne dites pas non, Marquis, on vous connaît.
J'ai le plus je barre.
C'est pas moi qui le dis, hein.
Allez-y, traversez tout Paris pour me faire.
Oh, il est pas content. Nananer, moi j'ai bon.
Quatrième, nous savons que le président a succombé à ses blessures.
Faux.
Faux.
Bah, c'est marqué vrai.
Bah, c'est faux.
J'ai rien compris.
Il est faux que nous sachions que le président a été blessé. On ne le sait pas. On nous dit le président est mort, les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher, la police a arrêté deux personnes armées, mais il n'y a pas un seul endroit où on dit qu'il a été blessé, qu'il a succombé à ses blessures. Cinquième question, les blessures du président étaient importantes.
Vrai.
Victoria. On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait même pas s'il y a eu des blessures.
On ne sait toujours pas si c'est un saisissement.
Les médecins ont tenté de sauver la vie du président.
Vrai.
On ne sait pas.
Non.
C'est pas indiqué dans le texte. On dit tout a été tenté.
T'es pas mal non plus dans ton genre.
Vous m'imaginez.
On ne sait même pas si tout a été tenté. On sait simplement que le docteur Azed a déclaré que tout avait été tenté. C'est fabuleux, c'est un outil extraordinaire. Sept. Nous savons que le président a été victime d'un attentat.
Mais non.
Faux.
Voilà, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Il est faux que nous sachions qu'il y a eu un attentat.
Il est faux.
Huit. Le docteur Azed a examiné le président.
On ne sait pas.
On sait pas ce qu'il a fait, ce brave homme.
Moi, j'ai marqué oui.
Ben non, on ne sait pas. Ce n'est pas spécifié dans le texte.
Vous êtes jobard, vous.
Mais non, il n'est pas jobard.
Non.
C'est... Attendez, on dira tout à l'heure quelque chose.
Il est candide, voilà,
Attends.
Rien à voir. Tu vas voir, ça va être moi le meilleur.
Non, c'est pas vous allez être le meilleur.
Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, en plus.
Non, c'est vraiment... C'est ça qui est fascinant dans cet exercice.
Non, mais ça commence à me passionner.
C'est étranger à toute considération sur les capacités intellectuelles. C'est une mécanique. Donc, 9, le docteur Azed a fait une déclaration.
Ah oui.
Oui.
Vrai.
C'est dit dans le texte.
Voilà, c'est dit dans le texte. 10, le président a reçu des soins.
Vrai.
Vrai.
On ne sait pas.
Ah ben, mais où est-ce que c'est ? Parce que vous avez déduit qu'il y avait un médecin qui l'avait donné.
Vous avez inféré, il est dit, le président est mort, les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher, la police a arrêté 2 personnes, le docteur Azed a déclaré que les dégâts avaient été trop importants et que rien n'aurait pu sauver la vie du président, précisant que tout avait été tenté. Il n'y a pas une seule fois la précision qu'il a, reçu des soins ou quoi que ce soit de ce genre.
Des automatismes.
J'en suis à
11.
Les hommes arrêtés étaient des gardes du corps.
Faux.
Non, on ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Et puis, et qui vous dit
on ne sait même pas si c'est des hommes.
C'est des hommes ou des femmes.
Voir de la Noé.
Indira Gandhi a été abattue par ses gardes du corps.
Voilà.
Oui. Et puis,
ça peut se produire.
En général, ce sont des hommes, mais ça aurait pu être une femme.
12. Oui. Les hommes arrêtés étaient armés.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Non.
Non.
La police a arrêté 2 personnes armées.
Ah, mais oui, mais on n'a pas dit que c'était les gardes du corps.
On n'a pas dit que c'était.
Ah, c'était les gardes du corps. Je suis portugaise en sablé.
Non, c'est.
13. Le docteur Azed pourrait être parmi les hommes arrêtés. Victoria ?
Je crois pas, parce que ça, il ferait pas de déclaration.
Alors, moi, je trouve que cette question est mal posée, parce que le docteur Azed pourrait être parmi les hommes arrêtés. La bonne réponse, c'est on ne sait pas. Mais comme il y a un conditionnel, pourrait, en fait, c'est oui, la bonne réponse. Oui, il pourrait bien être parmi les hommes arrêtés, mais on ne le sait pas.
Mais il ferait pas de déclaration.
Mais il n'y a pas d'exclusion.
Et on peut répondre
donc, la réponse officielle, à mon avis, elle est mauvaise.
Ah, reformule.
Ça se conclut.
Le docteur Azed pourrait être parmi les hommes arrêtés.
Oui. Non, je sais, il ferait pas une déclaration.
Ça, c'est ce qui est marqué dedans.
Ouais.
Oui, ok.
Et la bonne réponse, c'est on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais c'est vrai aussi qu'il pourrait.
Et oui, c'est dans la question.
Alors, je m'empresse de dire que l'auteur de ce test, c'est Severin Schaeffer.
Il faut le renvoyer, à mon avis.
Mais il est mort maintenant. Vous le renvoyez.
Bon, il est en boîte.
Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il ne maîtrisait pas très très bien le français et qu'il employait un conditionnel sur ce temps.
Voilà.
Je crois que c'est l'explication.
En tout cas, la réponse bonne ici. Que vous ayez répondu, si vous avez répondu on ne sait pas,
l'admet.
Vous l'admet. Et si vous avez répondu oui, vous avez raison aussi. C'est très agréable. Tout avait été tenté pour sauver la vie du président. On ne sait pas. Nous savons uniquement que le docteur Azed a dit que tout avait été tenté.
Oui.
15. 2 hommes ont été arrêtés.
Vrai.
Ouais. C'est vrai.
Non, ça peut être des femmes.
Ah oui, ou un homme ou une femme.
Ah, c'est 2 personnes.
Ou un homme et une femme.
Oui, 2 personnes. C'est marrant parce que ceux qui font des attentats sont des hommes. Directement, on raisonne en tant que.
La police a arrêté 2 personnes armées.
Moi, je ne fais pas les distinctions, je ne suis pas féministe.
Ah, ben oui, mais quand même, il faudrait apprendre.
Oui, c'est le 10 en 9.
Il serait temps. Nous savons que le président a été exécuté.
Faux.
Et on ne sait pas.
On ne sait rien.
17. Le président avait causé trop de dégâts. Le président avait causé des dégâts trop importants pour que sa vie puisse être sauvée.
Faux.
C'est rigolo, oui.
On ne sait pas spécifié.
On ne sait rien, quoi. Quoi qu'on nous dise, ça ne vaut rien, on ne sait pas.
Eh bien, vous avez raison, Goffin. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on nous a proposé un texte où vous avez l'impression qu'on vous a appris beaucoup de choses, et quand vous vérifiez, vous vous apercevez qu'en fait, on ne sait rien.
On ne dit rien.
On ne sait rien. Voilà.
Non, c'est mal rédigé, c'est sûr.
Mais non, c'est
très bien rédigé.
Voilà, c'est rédigé.
Voilà, exactement. Le docteur Azed est un homme. question.
On n'en sait rien.
Rien du tout.
Je ne sais pas.
Mais point d'interrogation.
Oui. Voilà. Le docteur Azed est membre du tribunal qui a jugé le président.
Faux.
Faux.
Nous ne savons pas si le président est mort dans les bras de sa maîtresse.
Reformule, s'il te plaît, là, le précédent.
Le docteur Azed est membre du tribunal qui a jugé le président. Non, c'est pas faux.
Non, on n'en sait rien. Faux. On n'en sait rien.
On n'en sait tout simplement rien.
Bah, évidemment.
Et 20, nous ne savons pas si le président est mort dans les bras de sa maîtresse.
Non, c'est vrai. On n'en sait rien du tout.
C'est pas vrai.
Voilà. Vrai, on ne sait pas.
Ah, vrai,
non,
on
non,
sait
non.
Pas.
C'est vrai, on ne le sait pas.
C'est vrai, on ne sait pas.
Donc la réponse, c'est vrai.
C'est vrai.
Voilà. Alors, ça, il y a comme ça dans un bouquin que j'ai sous les yeux qui s'appelle Sémantique général, la carte n'est pas le territoire, d'André Passebecq, selon l'enseignement de Severin Schaeffer, il y a un certain nombre d'exercices.
Mais on donnera les références.
Et Youssef Farinet,
on donnera les références après.
Qui sont de très très bons exercices pour mesurer à quel point. Alors, qu'est-ce que ça mesure ? Ça ne mesure pas l'intelligence, ça ne mesure pas la capacité de lecture et tout, ça mesure simplement la capacité de faire abstraction. Arrêtez-moi si je me trompe, Michel Sausset. De ce qu'on sait par ailleurs, de ce qu'on a emmagasiné comme a priori, comme connaissance, comme référence, pour dire, voilà, là j'ai un texte à analyser, un texte à lire, et que me dit ce texte ?
Avant que la science ne réponde, je voudrais compléter ce que vous venez de dire. Ça teste la capacité, vous l'avez dit, à retirer quelque chose d'un texte journalistique.
Non.
Parce que ce texte est biaisé et ça me rappelle. Je termine, j'en ai pour 5 secondes. Ce matin sur Europe 1, on me dit le tribunal d'Épinal ou de Mulhouse, Vénissieux, donc a innocenté l'imam en disant que le tribunal n'était pas compétent pour commenter ou juger le Coran qui dit que le mari est en droit de battre sa femme. Ça n'a pas plu aux journalistes entre guillemets de France Inter qui ont présenté le même fait de la façon suivante 2 heures plus tard. Le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour juger de tels propos. Donc discours biaisé exactement comme celui sur lequel on a été testé, qui veut nous laisser croire que l'imam avait déclaré ça à sa fantaisie.
Alors simplement, René, le problème c'est pas de répondre, le problème c'est d'expliquer ce que c'est que la sémantique générale et comment ça fonctionne. Donc on va pas engager le débat là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense que Goffman, quand il dit un texte biaisé, c'est pas le texte qui est biaisé, c'est la lecture qui est biaisée. Voilà, c'est ça.
C'est les inférences.
Ça, c'est essentiel.
Oui, moi, j'aimerais bien revenir.
Alors, allez-y, Michel Sausset.
Sur la notion d'inférence. Alors, d'abord, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que c'est dans le dictionnaire, etc. Alors, je précise que la notion d'inférence nous vient d'Aristote.
Bah, évidemment.
2400 ans. Qu'elle était introduite inférée était introduite au 15e siècle en français, inférence au 16e siècle, et que c'est au programme du bac. Dans le sens traditionnel, il s'agit bien d'une déduction à partir de prémices acceptées comme certaines. C'est la définition que vous donniez tout à l'heure. Maintenant, dans le cadre de la sémantique générale, c'est un tout petit peu différent. C'est la décision consciente, mais plus généralement inconsciente, que je donne à une observation. Donc là, dans le test, vous avez vu un texte, c'est l'observation, on lit un texte, voilà. Et inconsciemment, on infère un tas de choses du style, eh bien, le médecin était un homme, le médecin, je ne me souviens plus du texte.
Le docteur Azed est-il un homme ou une femme, on ne peut pas le savoir.
Donc, c'est une interprétation. Pour donner un exemple, on voyait quelqu'un, une femme sourit. Bon, alors, observation, le sourire. Inférence, elle se paie ma figure. Autre inférence, j'ai un ticket avec elle. Oui. Autre inférence, comme elle ne comprend pas ce que je dis, elle se donne une contenance, etc., etc. Et vous voyez que des inférences, nous en faisons toute la journée. Hein, c'est bien évident, puisque nous ne cessons d'interpréter ce qui se présente à nous. Alors, bien évidemment que ça a un grand intérêt par rapport au discours politique. Qu'est-ce que c'est finalement quelqu'un qui nous fait un discours politique ? Ben, c'est de nous faire inférer quelque chose. Bien entendu. Hein, qu'est-ce que font les publicitaires ? C'est de nous faire inférer aussi qu'il serait très bien pour notre santé, pour nous. Notre standing pour etc. d'acheter le produit machin chose etc. quoi.
En
politique bien entendu, mais commerce et politique c'est un peu le même travail, j'ai envie de dire. Il s'agit de vendre ou des idées ou des produits, mais de toute façon il s'agit de vendre quelque chose. Donc c'est ça une inférence au sens de la sémantique générale. Encore une fois, une interprétation consciente mais la plupart du temps inconsciente, parce qu'elle est liée complètement à notre culture mentale, à nos croyances, à nos positions politiques, morales, culturelles, etc.
À nos a priori, etc. En fait, voilà. Mais alors, au fond, bon, la maîtrise de cette technique, à quoi elle peut servir dans la vie quotidienne?
J'ai presque envie de dire, les affaires, mais la sémantique en général, on va dire, c'est une sorte de prophylaxie de la communication. Hein. C'est-à-dire, à longueur de journée, vous avez vous lisez les journaux, vous lisez la télévision, etc. Bon, il y a des messages qui vous sont proposés, et à partir de ça, vous inférez des quantités de choses. Et bien, la sémantique générale, c'est une sorte de protection, de distanciation par rapport au message général. Qu'est-ce que j'ai lu véritablement?
Une prophylaxie de la communication, vous dites de mettre un préservatif sur la langue de celui qui vous parle pour pas qu'il vous contamine.
Il y a un peu de ça, hein, c'est un petit peu comme ça.
C'est ça l'idée.
Oui, tout à fait, prophylaxie de la communication. Hein, entre autres, il n'y a pas que ça, mais entre autres, pour moi, c'est une bonne prophylaxie de la communication. Alors, pour en parler un peu plus en abordant tout à l'heure les notions de cartes et territoires qui sont extrêmement importantes.
Je voudrais dire une chose parce que M. Kaufmann a réagi un petit peu comme tous les médecins à qui j'ai fait passer ce test.
Il faut dire ça pour rassurer ceux qui
la faculté de médecine, ça constitue une sérieuse atteinte narcissique parce qu'on s'imagine qu'on raisonne très très bien et qu'on est pratiquement infaillible dans nos raisonnements. Et la plupart de nos problèmes résultent de cela. Alors, je l'ai fait passer chaque année en faculté de médecine ce test en disant vous êtes médecin, vous allez pratiquer, il est quand même bon que vous sachiez comment vous raisonnez et si vous comprenez très bien ce que dit votre patient. Donc ce test a été effectué, il y avait environ 400 médecins par année, hein, donc en tronc commun, et sur tous ces médecins, eh bien, il y en avait 4 ou 5 qui ont prétendu avoir fait moins de 3 fautes. Je m'empresse de
vous dire,
en autocorrection. Donc, il y a peut-être encore de la triche là-dessous, mais c'est quand même quelque chose d'important.
Alors, sur 400 médecins, il y a 1% qui avoue qu'ils se sont lourdement trompés. Enfin,
la première raison pour traiter, il faut déjà comprendre initialement.
C'est pas une mise en cause de la profession médicale, il faut préciser. Hein,
vous avez fait la chose avec ces bouchers. Avec des ingénieurs, des bouchers, vous auriez strictement la même proportion.
Hein. Voire des journalistes.
Mais je voudrais peut-être rajouter quelque chose sur les inférences. Parce que, comme nous l'avons présenté jusqu'à maintenant, ça a l'air quelque chose de négatif. Or, les inférences font partie de la connaissance. Il faut savoir que pratiquement la majeure partie de ce que nous savons est de nature inférentielle. Hein. C'est-à-dire qu'on distingue vraiment entre deux types de connaissances, qu'on appelle la connaissance factuelle. Donc connaissance factuelle, c'est lié à l'observation des faits. Et puis la connaissance inférentielle, qui est une interprétation des faits. Or, des quantités de choses, je peux donner quelques exemples. Bon, vous avez tous entendu parler des électrons, par exemple. Bon, nous savons la masse d'un électron. Nous savons quelle est la masse d'un électron, 9, 10 puissance, moins 20 pieds de gramme. Enfin, c'est extrêmement
moi, personnellement,
vous l'ignorez.
Même sous la torture, je suis incapable de vous répondre.
C'est mon métier.
De penser.
Bien entendu, on n'a jamais pesé un électron en mettant un électron sur un plateau de balance avec des petits poids de l'autre côté. Et la base de l'électron était inférée à partir d'autres mesures. Bon, il y a des quantités de choses comme ça qui sont.
Que
notre ami René, bien sûr, connaît bien. Le diagnostic du médecin. Le diagnostic. Bon, observe son malade, fait toute une analyse sémiologique, à l'issue de laquelle il fait son diagnostic.
Sémiologique, c'est-à-dire un ensemble de signes.
Eh bien, ce diagnostic est une inférence.
Alors, il y a un exemple d'inférence comme ça qui est intéressant, c'est la fameuse histoire du gars qui prend une sauterelle ou une puce, il la pose sur la table, il dit saute, la puce saute, il lui arrache une patte, il dit saute, elle saute un peu de travers, il arrache la deuxième patte, il dit saute, elle saute plus, il dit quand on arrache les pattes de la puce, elle devient sourde.
Ouais. Il en a à faire, elle devient sourde.
Alors, intéressant. Puisqu'on parlait d'une parenthèse sur la médecine, il est quand même intéressant de dire que le système aristotélicien en médecine, si on l'applique, ça fait un sérieux dégât dans la méthodologie d'approche du malade. Parce qu'on a affaire vraiment à une raison dissociée dans l'approche du médecin vis-à-vis de son patient. Premièrement, l'éclatement en spécialité, c'est complètement aberrant. On raisonne comme si les fonctions et les organes étaient indépendantes les unes des autres. C'est un postulat complètement aberrant. On sait très bien que l'un organisme est un tout différent de la somme des parties qu'il compose. Et il agit dans des combinatoires extrêmement complexes. Là, disqualification. Deuxièmement, c'est une répression des symptômes. On réprime le symptôme comme un signal. Alors comment peut-on remonter la chaîne des causes quand on supprime le signal initial? Et on vise aussi dans médecine la disparition du symptôme qu'on identifie à la guérison. Autrement dit, si vous n'avez pas de manifestation externe, vous êtes considéré comme guéri. Mais il faut quand même signaler que les pathologies auto-immunes, les pathologies dégénératives et toutes les pathologies en général se font dans un silence asymptomatique, c'est-à-dire dans un on n'en perçoit pas les effets, on les perçoit qu'en phase terminale et c'est trop tard. Alors la médecine classique, mais, ce qu'on peut dire pour conclure, Serge, ce qu'on peut dire pour en conclure sur le chapitre médical, puisque notre ami Saucet a ouvert la page, c'est de dire que la médecine classique, la médecine actuelle, a une démarche sophistique ou paralogiste. Ça veut dire elle est sophistique dans la mesure où le médecin sait qu'il commet une erreur mais qu'il en tire profit et qu'il vit comme ça, ou alors elle est paralogique s'il dit je me rends compte que c'est du pipeau et du bidon, il faudrait revoir ça parce qu'on n'est pas qu'au service des laboratoires mais au service des patients, et à ce moment-là elle est paralogiste. Mais à ce moment-là c'est son problème moral qui est en question, alors mais que dans le premier cas...
Mais quel rapport avec la sémantique, je ne comprends pas, il y a peut-être des auditeurs qui sont largués aussi.
Simplement que dans l'approche médicale, quand on approche le malade, on confond entre la maladie qu'on objective sur un point, alors que c'est l'organisme malade qui...
On a fait d'un seul symptôme des choses. Mais on peut adapter exactement le même raisonnement.
On infère un mauvais diagnostic d'une observation incomplète, c'est ça que vous voulez dire.
On peut dire exactement la même chose des médias. C'est-à-dire que... De même que le médecin qui a un comportement qui propose une thérapie de suppression des symptômes se trompe, de même quand les journaux écrivent que les jeunes ont foutu le feu au commissariat de Sarcelles, ils font un travail qui est du même ordre exactement. C'est-à-dire que comme il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas mettre le doigt sur les risques ou les inconvénients liés à la présence de catégories ethniques particulières dans un territoire donné, on les appelle des jeunes. Et c'est exactement un comportement qui est dénoncé ou qui doit être combattu par les outils de la neurosémantique ou de la sémantique générale. Ce qu'on fait à partir du moment où on rassemble un certain nombre de critères qui infirment l'utilisation du mot jeune, en disant, bon, parmi les jeunes, il y a des types de 35 ans, ce qui n'est pas spécialement jeune. Et d'autre part, il y a des jeunes qui, eux, ne foutent pas le feu au commissariat. Donc, il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. Et c'est un outil... extrêmement utile, parce que chaque fois qu'on est en présence d'un mensonge volontaire, d'un déguisement, d'une suppression de symptômes, parce que la maladie sociale, c'est comme les maladies du corps humain, on peut les analyser si on est conscient de si on a connaissance des différents signes, des différents symptômes, à partir du moment où on supprime un symptôme, on ne peut plus comprendre ce qui se passe dans l'analyse de la maladie, du corps social ou du corps humain. Et donc, le lecteur qui est formé un tout petit peu au maniement de l'outil de la sémantique générale, il y a un moment où il se dit, mais passez-moi l'expression, ils me prennent pour des cons, ils me prennent pour un con. Ils croient que je vais marcher dans leur combine, c'est pas possible. C'est un outil de défense, ça immunise formidablement contre la propagande, le mensonge, le trafic de fausses nouvelles.
La
manipulation mentale.
À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple simple. Est-ce qu'une hallucination, c'est un fait ou une erreur ? Eh bien, la plupart des gens répondront, c'est une erreur, puisque on ne perçoit pas ce qui existe.
Non, l'hallucination, elle est factuelle.
C'est un fait, à partir duquel, pour un sémanticien, il doit partir pour essayer de remonter la chaîne des causes et tout au moins abstraire.
Et c'est là qu'on
alors que l'autre, on aboutit à un jugement, l'autre, on aboutit à une recherche extensionnelle.
Mais c'est là
tout ce qu'il y a à l'origine de cela.
C'est là qu'on rejoint ce que disait le marquis tout à l'heure quand il parlait de point de vue. Parce que l'hallucination est-elle un fait ou une erreur ? C'est une question de point de vue. C'est-à-dire que du point de vue de l'observateur extérieur, c'est un fait. Le patient a des hallucinations. Point. Mais l'erreur, elle est chez le patient qui croit que ses hallucinations sont le reflet de la réalité. Et là, il se trompe.
Dans l'interprétation, y compris du médecin, quand il dit c'est une hallucination ou une hallucinose, c'est pareil, ça ressort du même type. C'est son point de vue, il commet une erreur. Ça aboutit à un jugement qui est définitif. Alors que dans l'autre démarche, dans le sens de l'erreur, eh bien, c'est le point de départ à une investigation.
Mais je voudrais qu'on essaye de circonscrire notre...
réflexion
à la question, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est les questions médicales, c'est intéressant, mais enfin on a des médecins parmi nos auditeurs, mais tous nos auditeurs sont pas médecins. En revanche, tous nos auditeurs, y compris les médecins, sont consommateurs d'informations ou de communication médiatique, et je crois que c'est important de leur montrer qu'il y a un moyen de se défendre contre l'abrutissement médiatique.
Complètement. Alors, en gros, pour aider nos auditeurs, et là, c'est un petit peu abusif, mais je crois que Michel pourra me reprendre sur ce sujet, on peut dire que, je pèse bien mes mots, pas tous les problèmes, mais la plupart des problèmes qu'on a sur le plan relationnel, politique, sentimental, familial, etc., etc., viennent de la confusion, il faut dire toujours etc., parce que c'est extensible à loisir, tous ces problèmes, entre guillemets, tous ces problèmes, eh bien, résultent de la confusion entre le factuel et l'inférentiel. Pour mieux faire comprendre. Alors, le factuel, c'est ce que nous observons, comme tu disais tout à l'heure, les faits, ce que nous percevons d'une perception, et puis les jugements que nous en tirons. Et bien souvent, les personnes qui s'expriment prennent le mot qui exprime le fait comme la réalité. C'est dramatique. Vous comprenez la différence ?
Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui tient une pierre dans sa main, un pavé dans la main, il fait tomber le pavé. Au moment où le pavé touche son pied, il pousse un cri. On en affaire que c'est le pavé qui lui a fait mal. C'est pas obligatoire, il peut très bien avoir au même moment eu une brusque crise de goutte,
oui,
qui lui fait pousser un hurlement, qui n'a rien à voir avec le pavé, c'est une coïncidence. Donc, nous on a tous tendance à dire, c'est le pavé qui lui fait mal, mais en réalité, on n'en sait rien. Voilà, troisième réponse, on ne sait pas.
C'est un
peu tiré par les cheveux. Mais non, mais il faut, démonstration n'est valide que si on la pousse jusqu'au bout. Autrement, ça n'a aucun sens.
Enfin, pour la pousser jusqu'au bout, il faut réinsister, à mon avis, sur le fait que l'émission du message est aussi biaisée que la perception. Parce que je remarque que vous insistez sur les défauts et les erreurs du récepteur du message. Dans notre cas, 600 000 ou 700 000 récepteurs. Mais moi, je suis très frappé d'une chose. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce test, les médecins avaient en moyenne 4 bonnes réponses. Moi, je l'ai fait par écrit sous vos yeux. Hein, et je me suis corrigé en rouge, c'est assez clair. J'ai 8 bonnes réponses. Si je le dis, c'est pas pour dire, voyez comme je suis malin, et plus malin que mon copain le marquis, qui n'en a que 3. C'est parce que je suis journaliste.
Il le dit quand même.
Je suis journaliste de métier et je vais pas dire que je truque le libre journal à chaque numéro que je fais comme secrétaire de rédaction, mais Serge, on le fait ensemble, on travaille ensemble, vous me voyez bricoler des titres et des intertitres.
Oui, ça je peux.
En essayant d'inférer quelque chose ou en essayant de dissimuler quelque chose qui nous gêne, on peut le dire, on n'est pas totalement différent de nos confrères, même si on les combat.
C'est pour ça que je dis, il faut préciser pourquoi on oriente plutôt cette émission vers le consommateur plutôt que vers le récepteur plutôt que vers l'émetteur. C'est parce qu'il s'agit de susciter des mécanismes de défense.
Voilà. Alors, le mécanisme... prouver qu'ils sont idiots.
Non, pas du
leur
tout.
Dire, faites un peu attention. Moi, ce que je remarque aussi comme statistique, c'est que sur 20 affirmations, il y en a 15, les trois quarts qui sont la réponse est on n'en sait rien.
Eh oui.
Donc moi je dis le discours est biaisé. Exemple, le docteur AZ, pourquoi est-ce qu'on l'appelle par ses initiales, sinon pour ne pas nous donner pour nous laisser nous débrouiller avec son sexe?
Eh bien, parce que peut-être
pour nous laisser inférer n'importe quoi.
Pas forcément ça. Non. Peut-être aussi parce qu'il s'appelle Ahmed Zitoun et que dans cette société là on peut pas dire Ahmed Zitoun.
Voilà. Comme sur France Inter ce matin, on peut pas dire que c'est dans le Coran qu'il faut battre sa femme et qu'il faut appeler ça ses propos, en laissant les gens inférer que c'est l'imam qui les a prononcés.
C'est exactement
à sa fantaisie. Et je pense qu'il faut prendre le problème par les deux
bouts. Non, mais on est d'accord.
C'est-à-dire dire aux gens, non, vous n'êtes pas idiots, mais soyez, s'il vous plaît, plus attentifs dans votre intérêt aux messages biaisés qui vous sont diffusés par les médias et pas seulement par les médias.
Je suis tout à fait d'accord, Patrick.
Par votre femme, par votre
médecin. Mais je dis simplement que nous, on n'a pas de... si on dit ça à nos aux journalistes, aux médiatiseurs, ils vont nous dire, mais Coco, t'as découvert l'œuvre de Christophe Colomb, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton discours. Donc, c'est pas eux qu'on veut aider. Moi, j'ai absolument pas envie d'aider
Il faut les réformer.
Alors ça, je vous laisse, mon cher Patrick, si vous êtes partisan, enfin, si vous êtes prêt à faire le missionnaire dans la presse, c'est votre problème. Et moi, j'ai pas une âme de Saint-Vincent-de-Paul.
Avec un revolver.
Je préfère dire aux gens, voilà, on est en train de vous arnaquer, défendez-vous contre les arnaqueurs. Point à la ligne.
Conclusion.
Les arnaqueurs, on s'en fout qu'ils crèvent. Mais vraiment.
Ils crèveront pas tout seuls, Serge.
Eh ben, on les aidera le moment venu, mais pour l'instant, on n'a pas le matériel.
conclusion pratique, oui. Employez des mots simples et vous serez compris.
Non. Ah non, 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 alors attends, non. Je peux répondre une seconde.
Oui, bien sûr.
Alors, je reprends ce que disait notre voisine, excusez-moi, je ne me souviens plus.
Victoria.
Victoria, Victoria, un nom prestigieux en plus. Quand je posais des questions simplement au plan médical à certains médecins, je me suis posé dans une problématique qui était assez grave.
Qu'est-ce que ça veut dire problématique, monsieur?
Une problématique, c'est
un ensemble de questions.
C'est un ensemble, oui, c'est quelque chose qui crée problème, un problème. Voilà. Alors, donc, je posais une question, je m'expliquais simplement. Et d'une manière très simple, quand je posais la question, est-ce que vous avez compris? Eh bien, avec beaucoup de ravissement, je voyais qu'une grande majorité d'élèves levaient la main. Mais quand je posais des questions, le fait dramatique, c'est que personne n'avait pas compris quand je posais. Deuxième technique, on devenait plus technique et plus précis dans son langage. Je posais la même question, avez-vous compris? 3-4 levaient la main en répondant, oui, j'ai compris. Je posais une question, celle-là avait effectivement compris. Donc, quand on va à la simplicité, eh bien, on a un problème qui peut être assez grave, c'est qu'on engendre la confusion. Et la confusion, elle est quand même intéressante parce qu'elle permet d'avoir la satisfaction pour tout à chacun de dire, eh bien, moi j'ai compris, je me sens bien et c'est très bien comme
et
ça.
Je vais l'illustrer avec une petite anecdote. Bobonne rentre à la maison, elle ouvre la porte à la volée et elle crie « Où les as-tu mis ?» Et son mari, qui commence à en avoir marre de sa simplicité et de ses mots simples et directs objectifs, il lui répond « Avec les autres
!» Histoire vécue.
Oui.
Comme disait ma... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas, il suffit pas d'être simple.
Comme disait la sainte femme de mère quand il lui disait « Maman, où est le pain ?» Et elle répondait, comme d'habitude, sur la table à côté du beurre.
Voilà. À quoi c'est pas ça, le beurre?
Tu constates, Serge, que si on développe la sémantique, ça devient extrêmement traumatisant. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on remet en question de plus en plus, et j'ai vu Stéphane Schaeffer, avec une assemblée de 40 médecins, mais vraiment tri sur le volet, qui était très pugnace, et a observé un mutisme complet de peur d'avoir une déferlante critique sur la manière dont il raisonnait.
C'est une question que j'avais posée à Michel Sauzet, parce que effectivement, il y a un moment où le discours, enfin le langage est paralysé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des clés indispensables de la sémantique générale qui font partie des grands mots codes qu'on trouve d'ailleurs dans le monde de A. La carte n'est pas le territoire, dites etc. etc.
Ah, précisément.
Et il y a un moment où ça bloque le discours. Parce quand on dit On a tout tenté. Alors, il y a toujours un professeur Féjean qui vous dit, non, pas tout, ne dis pas tout. On a tenté beaucoup de choses, mais pas tout. Et alors, il y a un moment où on est sans arrêt obligé de rectifier son propre discours. Bon, c'est un peu génial. Oui, mais on finit par plus parler. Oui, à un moment, on dit, bon, il y en a marre.
Ce que je crois, c'est que maintenant, il faudrait peut-être aborder la notion centrale de la sémantique générale, qui n'est pas la notion d'inférence, mais de carte et de territoire.
Ah.
Alors, cette notion de carte et territoire...
Attends, on donne la parole une seconde.
Excusez-moi. Votre émission était excessivement intéressante et prouve une chose, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de quoi que ce soit.
C'est vrai.
Oui, ça on en est sûr.
Il y en a moins qui a compris.
Oui, oui 20 affirmations.
D'accord.
20 affirmations et 15 fois, on n'a eu aucune information, on n'en sait rien, réponse.
Je sais que je ne sais rien,
pour revenir. Attends, juste sur une seconde. C'est important, je vois que M. Kaufmann s'est réagi.
Goffman,
excusez-moi.
Comme pyjama à l'hôtel.
Réagit de cette manière parce que inconsciemment quand on pose une question, si on ne peut pas y répondre, c'est générateur d'angoisse.
Oui,
et on a tendance à avoir une compulsion qui a tendance à donner une réponse ne serait-ce que pour sécuriser soi-même. Alors on commet des erreurs. Rester dans l'expectative, c'est rester dans l'angoisse. C'est vrai que c'est compliqué.
Oui,
mais les sémanticiens le savent en général. Si on veut avoir une chance de bien se positionner dans une information, il faut temporiser. C'est-à-dire arrêter, suspendre son jugement et observer. On reste dans le non-nominatif, on observe et on se tait. Et après, on peut formuler des chaînes d'abstraction et arriver à des conclusions. Mais ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est important parce qu'on apprend. On apprend tout dans l'existence, les techniques, mais on n'apprend pas aux gens à penser correctement d'une manière efficace, ce qui explique la totalité de nos problèmes.
Ça y est, bingo, il vient de commettre la faute. Non, merci, docteur.
Mais c'est une erreur sémantique oui. sur la totalité.
Oui, bon, comme quoi. Alors, c'est pas très grave, et tous nous rappelons le temps. Hein.
Ouais.
Oui, parce non, je disais. Michel, la notion centrale de la sémantique générale, c'est la notion de carte et de territoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de métaphore imaginée par Crosby pour nous expliquer ce qui se passe au niveau du langage. Alors, on part de la carte, mais de la carte géographique, tout simplement. Alors, bon, vous avez une carte Michelin, carte de la France. Et de là, on va pouvoir en tirer ce qu'on appelle des prémices, c'est-à-dire des propositions qu'on met en avant. Et la première prémisse qui est tout à fait évidente, c'est qu'une carte n'est pas le territoire. Effectivement, si vous prenez votre bout de papier avec un dessin dessus, ça n'est pas le territoire. Vous ne pouvez pas rouler dessus. Bon, une carte n'est pas le territoire qu'elle représente, bien évidemment. Première chose fondamentale. La seconde, c'est qu'une carte ne représente pas tout le territoire. Et bien évidemment que quel que soit le souci des cartographes de passer du temps, etc., on ne pourra jamais représenter tout le territoire. Tout le territoire, c'est la température, c'est les micro-organismes, c'est tout ce que vous voulez. Hein, c'est clair qu'on ne peut pas. Et la troisième est beaucoup plus intéressante et un petit peu plus délicate. La troisième prémisse nous dit qu'une carte est auto-réflexive. Dans la mesure où une carte représente aussi quelque chose qui relève du cartographe. C'est-à-dire qu'en fait, le cartographe a choisi un mode de représentation, mettons le système Mercator pour une carte, ou bien une carte marine. Vous savez que l'échelle varie continuellement entre les pôles. Le cartographe a choisi une police de caractères, enfin, etc. Donc, il est dans
les
la
couleurs.
Carte. Les couleurs, enfin, quantité de choses, même le papier.
Il y a une fonction à sa carte, routière, géologique.
Voilà, il a donc choisi de faire une carte ferroviaire, une carte fluviale, etc., etc. Donc, Trois notions sur la carte. Et alors, l'idée de Korzybski, c'est-à-dire, eh ben, finalement, de même qu'on peut faire une carte graphique d'un territoire quelconque, eh bien, on aurait pu faire une carte verbale, c'est-à-dire décrire un territoire avec des mots. Et par analogie, Korzybski avait imaginé les trois prémices qui concernent le langage. Et donc, elles sont extrêmement simples. C'est un mot n'est pas la chose qu'il représente. En effet, le mot chien ne mord pas. Je ne peux pas utiliser le mot micro pour m'exprimer comme je fais maintenant. Je ne peux pas m'asseoir sur le mot chaise, enfin, etc.
Sauf à avoir des mauvaises surprises.
Tout à fait. Donc, première chose. Seconde, c'est qu'un mot ne représente pas toute la chose. Alors, j'y reviendrai parce que c'est intéressant d'expliquer pourquoi. Et la troisième, c'est que le langage est auto-réflexif. En d'autres termes, quoi que je dise, j'ai bien quoi que je dise, et c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant, quoi que je dise, je parle de moi.
Bien.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée d'un monde, d'un prédonné objectif.
Je parle de
mon point observateur
de vue.
Impartial, voilà. Mais il y a quelque chose, la carte, c'est le lien entre ce que je perçois et ce qui est. C'est la relation conjuguée entre l'observateur et la chose observée. C'est ça la carte. Mmh. Donc le mot carte, bien entendu, il faut le généraliser. Ça, c'est pas simplement une carte géographique. Qu'est-ce qu'on appelle une carte maintenant?
Carte de visite,
disquette,
avec le nom,
une carte de visite, un menu,
ouais.
Mon CV, une disquette, un CD, enfin tout support sur lequel je peux mettre des informations codées.
Alors, je ne sais pas si le moment.
Alors,
mais
oui,
je vous en prie.
Non, mais terminez alors.
Je vous avais cité deux fois Korzybski. Il faut peut-être dire très rapidement alors, qui est Korzybski.
Oui, alors Korzybski, ça se prononce Korzybski. Disons que pour aider les auditeurs qui auront peut-être l'occasion
d'ailleurs, là, la carte n'est pas le terrain, puisque son nom qui s'écrit Korzybski se prononce Korzybski.
On va dire que la coutume en France, c'est de dire Korzybski, mais ça se prononce Korzybski, paraît-il. Alors, Korzybski était un ingénieur polonais. Né à Varsovie en 1879, vous voyez que c'est pas récent, mort dans le Connecticut en 1950, et qui donc était un stagiaire chimiste de l'Institut Polytechnique de Varsovie, et qui a été, disons, s'est engagé dans l'armée russe en 14. En 14, il a, alors je vais très vite, il a été blessé trois fois sur le front. En 1915, les Russes l'envoient aux États-Unis, parce que c'est important ça, l'envoient aux États-Unis comme pour réceptionner du matériel militaire. Et à la fin de la guerre, on lui demande de revenir, non, il ne revient pas, et c'est là qu'il commence une carrière un petit peu d'universitaire et qu'il développe cette fameuse sémantique générale.
Bon,
c'est l'inventeur du mot sémantique générale. Ça a porté d'autres noms avant, enfin, mais peu importe. Hein, c'est l'inventeur du.
Ça a dû beaucoup apaiser son angoisse d'avoir un nom qui s'écrit d'une manière et qui se prononce de l'autre.
C'est le cas de tous les Polonais, quand même, il ne faut pas oublier.
Ce qu'il faut dire que
le la même chose de nous.
Le comte, parce que c'était un comte, le comte Alfred Korzybski parlait le français, l'allemand, le polonais, le russe, puis ensuite l'anglais. Bon, c'est vrai, il y a toute une tradition de langage chez les... puisque l'espéranto a été créé aussi par un Polonais, le Tarski était aussi un Polonais.
Oui, mais il faut les comprendre, hein, parce qu'ils ont une langue qui est tellement fabriquée qu'ils préfèrent en inventer d'autres.
Alors, bon, je vais peut-être vous donner quelques compléments sur cette notion de carte et territoire. Oui. Alors, on peut dire, à quoi ça sert? Alors, je vous rappelle une chose, c'est que finalement, nous vivons surtout dans la carte, rarement dans le territoire. Nous pensons, nous agissons, nous décidons, non en fonction de ce qui est, mais en fonction de la carte. Si je faisais un petit tour de table ici, je demande qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans un quelconque pays africain ou asiatique. Eh bien, vous avez des opinions, bien entendu. Ces opinions, sur quoi les avez-vous fondées? Non pas sur une observation, mais sur des cartes. C'est-à-dire quelque chose qui vous a été distribué par des radios, des télévisions, des journaux, etc. Or, ces cartes, eh bien, ne sont pas le territoire, bien entendu. Mmh. Ne représentent pas tout le territoire et ils s'en foutent beaucoup.
D'accord.
Et sont auto-réflexifs dans la mesure où c'est le choix qui a été fait par un reporter, un éditeur, etc., etc. Donc, c'est une notion de plus en plus actuelle. Hein, nous vivons de plus en plus dans la carte et de moins en moins dans le territoire. Aujourd'hui, le paysan ne va pas regarder le ciel pour savoir s'il fera un beau demain. Il regarde la télévision, donc il regarde une carte. Hein. Donc, c'est une notion de plus en plus fondamentale.
Qu'est-ce que vous racontez? Je me souviens d'avoir entendu sur une, je ne sais plus quelle station de radio, le type expliquait que le spécialiste de la météo, enfin le liseur de dépêches météo, expliquait qu'il ne pouvait pas savoir le temps qu'il faisait sur Paris parce que la météo était en grève et qu'il ne recevait pas les dépêches.
Ah,
et son interlocuteur lui dit, mais pourquoi vous ne regardez pas par la fenêtre?
Alors, je voudrais encore deux ou trois petites choses sur ces notions de carte et territoire. C'est une notion absolument, je vais vite, mais enfin, c'est parce que c'est une notion quand même fondamentale. Par rapport au territoire, une carte est statique. C'est-à-dire que dès que vous avez cartographié un territoire, mais il ne bouge plus, la carte ne bouge pas. Hein, c'est clair, votre carte. S'il y a de nouvelles autoroutes, la carte Michelin ne va pas les inscrire automatiquement. Il va falloir racheter une nouvelle carte. Hein. Ça, c'est une première chose. Autre chose aussi, dans la carte, figurent des caractéristiques qui ne sont pas dans le territoire. Dans le territoire, il n'y a pas des gens qui sont intelligents, beaux, gentils, ça n'existe pas. Il n'y a pas de beaux paysages. Pour prendre un exemple qui fera plaisir à notre ami Féjean, l'effet placebo est dans la carte et n'est pas dans le territoire. Vraiment, c'est sur les notions fondamentales. Je crois qu'il faut, ce qui me paraît tout à fait intéressant pour les auditeurs, c'est d'intérioriser cette notion de carte et territoire. Car tous les jours, nous sommes soumis à des cartes, à cette notion de carte-territoire. Vous allez ouvrir votre téléviseur tout à l'heure, et bien ce sont des cartes qui vont défiler, et certainement pas des territoires. Alors il y a des gens qui peuvent me dire, parce qu'on m'a déjà fait cette remarque, mais en fait la télévision, c'est pas une carte, c'est le territoire. Il faut être un petit peu sérieux.
Bah, c'est ce que Bonal appelle les territoires.
Il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui fait des choix.
Oui, mais c'est ce que Bonal appelle les territoires protocolaires. Alors là, on sort enfin, on passe dans un autre univers, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de territoires qui sont artificiels, qui sont virtuels, organisés, et qui font partie de la grande tromperie.
Tout à fait. Tout à fait. Alors je voudrais dire, oui, dernière petite chose, oui. Et puis je te cède la parole, excuse-moi. Je disais que, en ce qui concerne les mots, le mot ne représente pas toute la chose. Alors il faut bien être conscient de ça. Le langage n'a pas la capacité d'exprimer la totalité d'un ressenti. Si je vous dis, expliquez-moi le goût de la mangue, j'en ai jamais mangé, je vous mets dans l'impossibilité de m'expliquer le goût de la mangue.
Non, hein.
Expliquer une douleur.
Le bleu.
Korzybski, lui, je me souviens dans les séminaires d'Olivet College, ça se passait en 37, il disait aux gens, pincez-vous. Plus fort. Dites-moi ce que vous ressentez. Ça fait mal. Oui, d'accord, mais un coup de marteau aussi. Expliquez-moi ce qu'il y a de spécifique.
C'est impossible.
Dans le fait. Bon, c'est totalement impossible. Hein. Si je vous demande de m'expliquer ce que c'est que l'aboiement d'un chien, vous imaginez un petit peu la séance. Hein. Vous ne pourrez pas l'expliquer non plus. Donc, il y a une quantité de choses qui n'appartiennent pas au domaine du langage.
Mais c'est sur quoi qu'on arrive assez vite à une position philosophique et la position idéaliste, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, je me suis toujours posé la question, quand je mange un bonbon sucré, la sensation que j'éprouve, peut-être que mon voisin d'en face, il éprouve exactement la même sensation, mais pour lui c'est salé.
Ce qui est intéressant.
Comment le savoir? C'est impossible.
Bien sûr, et là, ça pose un problème, si l'on veut, en termes de communication.
C'est daltonien de la langue.
Qu'est-ce qui se passe dans une communication? Imaginez que je vous dis, tiens, je vais être obligé de m'arrêter parce que j'ai mal aux dents. Donc vous comprenez le sens du message. Maintenant, mon mal de dents, comment imaginez-vous, à partir du vôtre éventuellement, si vous avez déjà eu mal vos dents. Sinon, donc on est dans une relation intersubjective, c'est-à-dire que communiquer, c'est créer pour l'autre un événement auquel il ne participe pas, mais qui lui permet, par inférence finalement, et en se ramenant à lui, d'imaginer à peu près ce qui se passe. Bon, si je vous dis que j'ai mal aux dents, vous voyez à peu près où ça se passe. Alors si vous n'avez jamais eu mal aux dents de votre vie, vous dites, bon, je vois bien dans quelle région ça se passe. Hein. Si vous avez déjà eu mal aux dents, et très mal aux dents, le pauvre garçon,
c'est la vieille histoire des dames qui ont la migraine, parce que c'est très embêtant d'avoir la migraine, et se dit, comment je pourrais faire passer le message? Ben non, c'est que j'ai ma migraine.
Voilà. Voilà, j'ai ma migraine.
C'est embêtant pour le monsieur aussi.
Absolument.
Pour revenir à quand j'ai Kojebski ou Korzybski à votre convenance. Il était ingénieur et il est parti d'une évidence qui était cruciale, c'est de dire mais pourquoi les ingénieurs construisent des ponts généralement qui tiennent ? Alors que nos politiques construisent des structures sociales qui s'écroulent constamment.
Bonne question.
Alors, la question, elle répond.
Parce qu'on passe plus souvent sur un pont que sur une structure sociale.
Oui, d'autant plus. Mais en tout, il n'y a pas de système sociaux qui soit pérenne. Les systèmes sociaux, les uns après les autres, eh bien, ne résistent pas autant. C'est la preuve qu'ils sont imparfaits et qu'ils s'adaptent mal à la situation.
Je suis content qu'il ait choisi l'exemple du pont plutôt que celui de la façade de l'Opéra Bastille et quelques autres monuments à Paris.
Oui, mais il pose un problème. La différence entre ces deux, eh bien, c'est l'approche méthodologique que préconise bien évidemment Kojebski. Alors, on peut faire dialoguer à loisir des hommes illustres, des anciens, des hommes de pensée. Et Einstein peut dire, par exemple, pour répondre à la prétention mathématique de Kojebski, il disait, dans la mesure où les lois mathématiques ont à voir avec la réalité, elles ne sont pas certaines. Mais dans la mesure où elles sont certaines, elles n'ont rien à voir avec la réalité. Ce qui est quand même assez intéressant.
Ça confirme ce que je pense depuis longtemps d'Einstein.
Oui, et puis alors Pline l'Ancien disait, bien, c'est difficile de vivre dans un monde de certitude, mais la seule certitude que je puis avoir, c'est qu'il n'y en a, qu'il y a rien n'est certain.
Je sais que je ne sais rien.
Eh bien, ça nous renvoie à un état de disponibilité vis-à-vis de l'information et vis-à-vis de la perception.
Bon, on vient de se manger la moitié du programme de terminale en philo. Hein. Moi, je trouve qu'on est assez balèze.
De compléter. Je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. En ce qui concerne les théories, que ce soit les théories mathématiques, physiques, chimiques, peu importe, les théories sont des cartes, ne sont pas le territoire. Donc une théorie ne prouve ni ne démontre quoi que ce soit, si ce n'est ce qu'on appelle sa consistance. C'est un mantra lui de l'anglais qui veut dire la cohérence, en fait.
Alors, elle est
une théorie
est un système
hypothétique ou déductif, hein, tout simplement. Ouais. Mais le monde réel n'est pas des mots. Hein. Le monde réel n'est pas de la théorie. Et donc, il y a des gens qui disent pas la théorie, la pratique, c'est dit, ben oui, la théorie et la pratique, c'est deux choses assez différentes, mais nous avons besoin des théories. Hein. Mais en tout cas, la théorie est une carte, ce n'est pas le territoire.
Hein. Ce que je vous propose maintenant, je crois qu'on a pas mal de messages, Victor, et qu'est-ce que...
Oui.
Eh bien, allez-y, dites-nous les messages, même si c'est des messages.
Oui, il y a des messages, Serge.
Lisa, tu peux recommencer le repassage.
Vous pouvez les lire ? Oui, je peux les lire.
Je suis en train de chercher celui que je lui avais mis.
Messages personnels.
C'est factuel, c'est possible.
Le reflet de vos sentiments propres.
Non, mais c'est pour information. Non, c'est quelqu'un qui...
Message personnel. Gisèle, tu peux reprendre le repassage.
Pour information, le roman de M. Van Vogt, auquel il a été fait allusion au début de l'émission, s'appelle « Le monde des noms A ». Noté A barre, c'est-à-dire des noms aristotéliciens. Le roman a une suite, Les joueurs du nom A. Ces deux romans ont été traduits par Boris Vian au début des années 50.
Oui, j'ai fait un lapsus, j'ai dit le monde de A, mais c'est le monde des noms A, évidemment, parce que
c'est l'inverse.
De la barre sur le A.
C'est un ami à vous qui vous dit l'inventeur de la sémantique est un certain De Saussure de nationalité suisse.
Oui, on a la
1837. 1913.
Ferdinand.
Il semble que Serge ait trouvé Saussure à son pied.
On est toujours en terminale. Hein.
Alors, le marquis jaloux, il a fait une mine comme ça. Il a bien voulu la trouver, celle-là.
Hein. Dis-moi, Serge, on est peut-être à un point où il faut se dire, mais comment doit-on raisonner face aux événements ?
On va le faire, mais je voudrais qu'on a encore une vingtaine de minutes, un quart d'heure. Je voudrais avant qu'on donne la parole un peu aux auditeurs.
D'accord.
Et rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie.
Au début, un auditeur demandait, les mots déduire et déduction sont-ils vraiment trop simples ?
Oui, enfin,
il y a des nuances. Je crois qu'il y a des
français,
nuances.
En français, il n'y a pas de synonyme. Le français ne connaît pas le sens.
Il y a induire, déduire, inférer, tout ça, s'il y a trois mots, c'est qu'il y a trois sens, ne vous inquiétez pas.
Non, inférer, c'est ferro, ferro tuli latum.
C'est porté,
donc c'est porté dedans, voilà. Tandis que déduire, c'est conduire au dehors.
Oui, ça veut déduire.
Voilà. D'où qu'elle est.
Là, c'est une auditrice qui n'est pas au niveau, probablement. Elle est un peu comme moi. L'émission arrêtez de discuter sur des queues de cerises.
Oui, mais ça, voilà. C'est, bon, enfin, bref, non, rien. J'ai rien à dire.
On a qu'à revenir à Pline l'Ancien.
Mais elles ont la vertu des diététiques, les queues de cerises.
Oui, mais cette dame-là, c'est des gens qui
j'en profite pour vous dire que nous sommes sur Radio Courtoisie.
Merci, Marqué, c'est gentil.
C'est écrit, il faut le dire tous les quarts d'heure.
Les gars qui pensaient qu'on est sur Radio Rock, c'est pas ça.
Un auditeur, comme il est vrai qu'un mot ne suffit pas à représenter toute la chose. On est confronté à cela dans l'étude de tous les phénomènes, exemple la lumière, onde ou corpuscule, ou les deux à la fois.
Ouais, une théorie.
Le mot n'est pas la chose, je crois qu'on l'a établi très solidement.
Il y a une très jolie pièce de théâtre en ce moment, le mot est la chose, qui est au théâtre Montparnasse.
Même si on retient que. Oui,
oui, c'est le mot. Bien. Oui. Bon. Enfin, c'est inspiré de la chanson, le mot est la chose.
C'est tout?
Oui.
Je vous ai vu manipuler des papiers dans tous les sens depuis 10 minutes.
Mais non, c'est parce que les. Excusez-moi, mais vos auditeurs ont envie de parler d'autre chose, alors je ne peux pas vous en parler, là.
Bon, on parlera d'autre chose un autre jour.
Ah ouais.
Donc tous les autres, là, c'est ça.
Voilà, bon, revenons. Alors, donc, il y aura peut-être d'autres remarques, réflexions, mais moi, je ne suis pas impressionné par le fait qu'il n'y ait pas plus de questions, parce que j'ai remarqué que, en fait, les réactions des auditeurs sont presque inversement proportionnelles à l'intérêt d'une question. Et plus c'est intéressant en moyen de message.
C'est aimable. C'est des choses qui sont sidérantes.
Ouais, voilà.
Ce serait peut-être intéressant de préciser pourquoi Nona.
Oui.
Alors, bien sûr que nous savions que c'était le monde de Nona. Oui. Et ce monsieur a oublié un troisième. Le troisième tome, qui est La fin du Nona, qui n'a pas été traduite par Boris Vian. Alors pourquoi Boris Vian a-t-il traduit ces deux romans? Parce que lui-même était un fanatique de la sémantique générale de
Boris. C'était un grand matheux, Boris.
Un ingénieur des mines.
En plus de la trompinette, il pratiquait très bien la mathématique.
Bien sûr.
Il a découvert l'usage du dernier tiroir du bureau en bas.
Oui.
Après un stage d'un an, je vois que monsieur est au courant, après un stage d'un an, son premier emploi, il a trouvé que ça servait à poser son pied.
Oui, alors la philosophie non aristotélicienne, oui, c'est entre autres celle qui consiste à dire une porte n'est pas ouverte ou fermée, elle est ouverte. Ouverte, fermée, oui, ouverte.
Enfin, voilà, très vite, parce que ça devient un petit peu compliqué, le temps est compté. Alors, Aristote, bien sûr, il y a vraiment l'emprise d'Aristote sur la pensée occidentale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 2400 ans, dans l'Organon, Aristote a précisé ce qu'il appelait les lois de la pensée. Donc, trois principes, principe d'identité, non contradiction et tiers exclus, ce qui débouche sur ce qu'on appelle les orientations bilanantes. C'est comme ça ou comme ça. C'est blanc ou c'est noir, on est de gauche ou on est de droite, on est manuel ou on est intellectuel, on soigne le corps, on soigne l'esprit, etc., etc. C'est tout ce qu'on appelle des systèmes d'orientation bivalente. Hein. Donc ça nous est issu d'Aristote, la pensée d'Aristote, qui a profondément marqué, comme vous le savez, la culture occidentale. Et vous avez des pays qui ne fonctionnent pas comme ça. Les pays asiatiques, par exemple, quelque chose comme la voie du milieu dans le bouddhisme, est précisément une règle qui échappe aux deux extrêmes. Soit je suis dans l'extrême pauvreté, soit dans l'extrême richesse. Il faut quelque part entre les deux, c'est-à-dire avec le peuple. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est plus intéressant d'avoir des raisonnements nuancés, où on s'enferme pas complètement d'un côté ou complètement de l'autre. On n'est pas ou riche ou pauvre. On peut être quelque part entre les deux. On n'est pas malade ou bien portant.
Le christianisme a inventé un concept qui me paraît le seul vrai, c'est on est riche de sa pauvreté.
Oui, encore que la scolastique a véhiculé toute la logique d'Aristote. Alors là, c'est moins qu'on veut dire. Enfin, bon, c'est une partie, disons, de l'aspect non aristotélicien de la sémantique générale. Enfin, c'est important. On essaie de ne pas s'enfermer dans des raisonnements dichotomiques où tout est vrai, tout est faux, etc. Alors, on peut donner quelques exemples où on voit bien que ça s'applique pas. Si vous prenez finalement, il y a encore quelques années, tous les ans, il y avait la conscription et le jeune Français de 19 ans
Saint-Laurent passait sous la toise, et on avait la belle courbe de Gauss, courbe en cloche. Eh bien, quand on regarde la distribution des tailles, il n'y a pas des grands elliptiques, il y a surtout des moyens. Si vous prenez, en termes techniques, les caractéristiques d'un produit industriel, eh bien, les caractéristiques se distribuent sur une courbe de Gauss. Là aussi, courbe, fameuse courbe en cloche, pas très bon, très mauvais. À chaque fois, on se retrouve avec ces fameuses courbes. Donc, on peut dire que pour décrire le monde d'une manière un petit peu plus exacte...
Il n'y a que les impôts qui se décrivent selon une courbe asymptotique.
Eh bien, les impôts ont bien compris aussi que vous aviez, au milieu de la courbe de Gauss, un maximum de personnes, et c'est vrai qu'il fallait prendre l'argent. Alors ils ont compris ça aussi, rassurez-vous, ça marche aussi. Bon, voilà, très rapidement, quel est le lien entre Aristote ou le non-aristotélisme et donc Korzybski qui proposait une approche dite non-aristotélicienne et une logique, lui il disait infinivalente, c'est-à-dire avec toutes les nuances possibles. Alors on ne dit plus infinivalente, c'est un terme qui est un peu désuet, on parle de logique multivalente. Il n'est pas l'inventeur des logiques multivalentes. Bien avant, dans les années 20, que ce soit Paulette Février, Jean-Louis Destouches, des gens comme ça, en France, du fait de la mécanique quantique, travaillaient déjà sur des logiques multivalentes, mais mathématiques. Alors que l'idée de Korzybski, c'est de dire ça peut servir à tout le monde. On n'est pas en train de faire des mathématiques, ça peut servir à tout le monde. Et pour en terminer, une petite erreur qu'il faut absolument éviter, parce que j'ai lu dans un ouvrage sur la sémantique générale, eh bien, Korzybski n'opposait absolument pas une logique bivalente, c'est-à-dire l'idée d'Aristote, à une logique multivalente, ce qui serait rétablir la dichotomie qu'il dénonce. Il dit simplement, cette logique aristotélicienne s'applique néanmoins dans des quantités de cas, mais c'est un cas particulier d'une logique multivalente.
Voilà, oui. Je donne la parole à René Féjean et puis ensuite aux auditeurs.
Oui, un des maîtres mots de la sémantique générale, c'est le système évaluation. Et dans le système A, par exemple, si on formule un jugement en disant « Jean est un égoïste », on émet un jugement. Mais bien souvent, c'est ce que nous disons. Nous formulons des jugements à l'emporte-pièce avec des raccourcis de cette nature. Dans le système non A, voilà de quelle manière il faudrait s'exprimer. Alors c'est un peu alambiqué, mais c'est d'une précision assez étonnante. Dans de telles circonstances et à l'égard de telles personnes, Jean s'est comporté d'une façon qui... selon mes propres standards, me paraît égoïste. Celui qui parle, évidemment, exprime ses préférences, ses opinions, ses normes dans une situation particulière et sous un jour particulier.
Ça cadre assez mal avec les SMS. Hein, ça...
Par contre, ça cadre bien avec le langage politiquement correct. J'en profite pour rappeler, parce qu'on a oublié de le dire, que ce monsieur Von Voigt, en dehors de son roman sur le Nona, a été un supporter pendant des années et des années de premier plan de Hubbard, le fondateur de la scientologie, et que c'est lui qui a organisé en particulier son acclimatation à Los Angeles, en Californie, qui a été la plus belle époque de sa vie.
Alors je voudrais quand même donner la parole à un aristotélicien du genre ferré à glace, si j'ose dire. Non, pas ferré à Saint-Germain, on est ferré à glace. Non. Avez-vous bientôt fini de prendre les auditeurs pour des imbéciles?
Non, je l'ai reconnu.
Je ne l'ai pas lu.
C'est moi qui le lis.
Oui. Écoutez cela parce qu'ils sont bien. Vous employez la philosophie marxiste sans le savoir. Parce que cette philosophie pense que ce qui est n'est pas, selon le principe de contradiction. Et une auditrice...
On vient de dire exactement le contraire, mais c'est pas grave.
Et une auditrice, je trouve cette émission très intéressante, en décortiquant les exemples sur l'inférence, cela n'amènerait-il pas à l'étude de la
phénoménologie. Bravo, vous reviendrez en deuxième semaine. Alors, il nous reste assez peu de temps. Vous voulez dire encore
quelque
chose? Oui, bien sûr, il y aurait des millions de choses à dire.
Pour préciser
le titre.
On va y venir.
Concernant le marxisme, la logique, c'est la logique dialectique d'Hegel et non pas du tout la logique dont on vient de parler.
Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que... Enfin, bon, non, ça me fascine plus, ça commence à me fatiguer un petit peu. C'est-à-dire que dès qu'on est, on essaie un petit peu de sortir du discours habituel sur tous des voleurs. Je suis d'accord, tous des voleurs, tous des escrocs, tous des voyous, sauf ceux qui ne le sont pas. Il faudrait-il ajouter pour être conforme aux règles de la sémantique générale. Il y a quelques auditeurs qui disent mais arrêtez de nous embêter, avec vos âneries.
Donnez-nous la minute du marquis.
Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Donnez-nous la minute du marquis. Voilà. Bon.
Ils veulent du prêt à penser.
Mais c'est même pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui veulent se détendre, qui veulent penser à autre chose. Mais là, je crois qu'avec avec l'outil que constitue la sémantique générale ou la neurosémantique, on a vraiment quelque chose qui peut servir d'une façon quotidienne à comprendre, à décrypter les messages, à débusquer les mensonges et à se protéger contre les voyous. Alors, c'est quand même essentiel. Je veux dire, j'ai dit l'autre jour que Jean Madiran était volins-nolins, en le sachant ou en ne le sachant pas, je l'ignore parce qu'on n'en a jamais parlé, un maître du décryptage.
Oui.
Inférentiel. Il y en a un autre, c'est un auditeur qui m'a écrit en disant, je suis étonné que vous ne l'ayez pas cité, il avait raison, c'était l'abbé de Nantes.
Oui, c'est vrai.
Qui, quand il faisait ses conférences à Paris, était éblouissant parce qu'il prenait l'actualité comme ça et il décortiquait l'actualité en mettant en lumière les contradictions, les mensonges, les à peu près, bon. Et ça, c'est un outil formidable. Moi, j'ai appris à travailler en lisant ces gens-là. Une des activités du Libre Journal, une des ambitions du Libre Journal, c'est de participer à ça, de faire des papiers pour essayer de tirer au clair. Alors, bien sûr, on nous reproche d'être un peu vif, un peu parfois un peu grossier.
Et pourtant, on gaze nous aussi, comme je disais tout
oui,
à l'heure.
On le fait aussi.
On arrange, on enveloppe un peu les choses, ne serait-ce que pour pas être devant les tribunaux trois fois par mois.
Parce que on pourrait pas se permettre de courir de trop grands risques, encore qu'on va assez loin quand même. Mais bon, en tout cas, je crois que c'est un outil, je suis convaincu que c'est un outil formidablement utile. Et si vous voulez l'approfondir, cet outil, il y a un bouquin.
Non, c'est deux bouquins.
Ils vont avec. Du même auteur, André Passebecq. L'un, c'est Sémantique Générale. Et l'autre, c'est neurosémantique. Alors, ne vous laissez pas impressionner par les titres. C'est d'une
simplicité formidable,
exceptionnelle, avec beaucoup
d'exemples pratiques.
Beaucoup de petites gravures, beaucoup de tests, comme celui qu'on s'est amusé à vous proposer tout à l'heure. Ils sont encore disponibles.
Ah oui, autant.
Oui. Donc, on peut les commander. C'est ça, hein.
Vie Action.
Alors, on peut commander ces livres à Vie et Action. C'est pas une secte, hein. Je vous le signale tout de suite. C'est simplement un groupe de gens qui essayent de réfléchir d'une façon intelligente. Vie et Action, 06 620 Gréolière, G-R-E-O-2-L-I-E-R-E-S, 06 620 Gréolière, le téléphone 04 93 59 98 99, donc neurosémantique et sémantique générale, par André Passebecq, ce sont deux ouvrages.
Gratuit?
Non, c'est, je pense pas que
non,
ce soit gratuit.
C'est pas onéreux du tout.
Comme
hein.
Ils sont imprimés sur du papier avec de l'encre, ouais, ça non, doit valoir 3 non, sous.
Oui, ils sont pas onéreux du tout, j'ai pas le prix, mais ils sont très accessibles. C'est ce qui est avantageux quand même pour ça.
Et cette association organise des stages et des cours.
De sémantique générale.
D'initiation et d'approfondissement à Paris, en Belgique, en Suisse, au Maroc et à Gréolière, ce qui élève Gréolière au rang de grande nation, parce que je vois sur la liste Paris, Belgique, Suisse, Maroc, Gréolière. Magnifique.
Oh, bah, c'est quelle à côté de Nice, alors ça ne doit pas être différent.
Alors, André Passebecq, d'après Séverin Schaeffer, S-C-H-A-E-2-F-E-R, moi, je vous recommande la lecture de ces livres qui sont très très simples, puisque même moi, il y a des trucs que j'ai compris, donc c'est vous dire vraiment à quel point.
Oui. Bon, il y a un autre ouvrage qui maintenant est publié en français de Korzybski, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Hein.
Mais plus complexe.
Le titre, c'est. Non, une carte n'est pas le territoire.
Ouais.
Et l'éditeur, c'est L'Éclat. Comme un éclat, et l'apostrophe, c'est l'article.
Mais c'est vrai qu'il est un petit peu
plus complexe.
Plus compliqué que. Enfin, d'un abord, un peu plus compliqué.
Sûrement. Et encore, c'est le plus facile de.
Et alors, il y a une troisième solution pour aborder d'une façon agréable et plaisante sur la Internet, question, c'est de lire les bouquins de Van Vogt.
C'est de la science-fiction.
Ben oui, mais pour ceux qui aiment, c'est pas un péché d'aimer la science-fiction.
Non, non, mais il y a pas ça.
Et puis, sur Internet, vous allez sur Google, qui est le moteur de recherche
général.
Vous tapez guillemets, sémantique générale, fermez les guillemets, voilà. Et vous avez à peu près tous les sites qui en parlent, des sites en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en chinois, en portugais, ce que vous voulez.
Je voudrais quand même préciser quelque chose pour conclure. Notre ami Serge, sa modestie dut-elle en souffrir ? Il faut quand même signaler qu'il a passé ce test à mon domicile et qu'il a fait une faute ou deux fautes, ce qui est absolument remarquable.
Journaliste.
Il est soupçonné.
C'est le chef.
Personne exceptionnelle.
C'est le chef.
C'est parce qu'il est journaliste, sa modestie ne souffre pas. C'est un professionnel du discours biaisé.
Et
son décryptement. C'est comme ça qu'on dit.
Décryptage, j'aurais
dit plutôt. Décryptage.
On ne va pas en parler ce soir, René Feijan, mais vous êtes également un des membres éminents de l'association lancée par notre camarade Pierre Descaves, qui sera parmi nous très prochainement.
France Résistance. Et qui a pour objet, maintenant, on était fixé sur la défense du non au référendum, et puis on a eu un succès, une quantité de personnes qui ont voulu participer, tant et si bien qu'on s'est dit maintenant, on pourrait s'attaquer à quelque chose qui me semble plus évident et qui concerne tout le monde, c'est la défense de toutes nos libertés dans tous les domaines qui soient sociaux.
Sur Internet, France, vous n'avez pas de micro, monsieur, alors ça ne va pas être terrible. Sur Internet, france-résistance.com.
Bravo.
Alors, ce qu'il faut dire, France Résistance sans accent, ce qu'il faut dire également, c'est que c'est le fait que France Résistance commence à s'intéresser à ces questions, c'est directement lié à l'intérêt de René pour la sémantique générale, parce qu'en fait, ça sera probablement la première organisation politique qui posera cette question de la compréhension des textes et du décryptage des textes. Comme a priori à l'élaboration d'une doctrine. Voilà. C'est assez formidable. Maintenant, je voudrais dire, il ne me l'a pas demandé, mais je le précise, que puisqu'on parle de politique, il faut au moins avoir la courtoisie de dire que Michel Sausset n'est pas venu là pour parler de ça. Je ne connais pas du tout ses opinions. Elles m'indiffèrent d'ailleurs à peu près complètement. Ça ne m'intéresse pas, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'il est là. Il est venu parler de sa spécialité, qui est la sémantique générale ou la neurosémantique, et pas du tout faire acte de militantisme politique, contrairement à René. Maintenant, s'il veut faire acte de militantisme politique,
c'est sa liberté.
Et c'est son choix. Je lui donne même une minute pour chanter l'International.
Et s'il veut s'abonner au Libre Journal, je lui donne l'adresse. Alors, le Libre Journal, c'est 110€ pour un an, à SDB, 4 places Franceli, 75-010 Paris. Mais si vous me faites le chèque à moi tout de suite, c'est 100€ seulement.
Macron, il n'y a pas d'autre mot. Mais Marquis, vous n'avez rien à dire, vous êtes.
Sous le charme.
Sous le charme.
Moi, je peux préciser une dernière chose, c'est que nous avons dit très très peu de choses sur la sémantique générale. Il faut le préciser. Il ne faudrait pas que les gens aient le sentiment qu'ils ont balayé tout le champ de la sémantique générale.
On n'a rien abordé, pas
c'est un petit pourcentage, mais des choses quand même qui sont importantes, qui me paraissent importantes, interpellantes, en tout cas, interpellantes. La notion de France, de carte territoire sont interpellante, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses encore.
Alors, si les auditeurs le veulent, on pourra refaire une émission sur ce sujet, parce qu'il y a effectivement énormément de questions qu'on n'a pas posées.
Plus pratiques.
Et des questions pratiques, notamment. Donc, moi, je suis tout à fait disposé à en reparler, parce que ça me paraît essentiel. Mais pas, ça ne me paraît pas simplement, contrairement à...
J'ai compris une chose, quand même.
Oui,
dites-moi. C'est que le médecin légiste doit se dire qu'il faut qu'une morte soit ouverte ou fermée.
C'est bien. Vous pourrez revenir en deuxième semaine. Victoria, une bêtise à dire, vous aussi.
Mais par cette chaleur et un jour de pleine lune, je trouve que c'est un peu difficile.
Pourquoi vous
êtes ça rafraîchissant.
Le poil vous vient au menton et vous alliez à la fenêtre pour hurler.
Alors, si les auditeurs éprouvent le besoin, eh bien, qui demandent à notre ami Serge de faire paraître périodiquement un test ou une étude sur la sémantique générale, et bien volontiers, nous le ferons.
Voilà. Serge, on a une toute seconde. Est-il possible de redonner les coordonnées de cette association sur la sémantique? Vous parlez trop vite, on n'a jamais le temps de noter. Voilà.
Vie et action. Vie et action, je comprends. 06 620 Gréolières, G-R-E-O-2-L-I-E-R-E-S. Téléphone 04 93 59 98 99. 04 93 59 98 99. La suite de l'émission avec Bernard Anthony et son équipe.
Parler de fleurs, je crois.
Comme d'habitude.
Nous vous écoutons.
Merci. Alors, je salue d'ailleurs d'abord les auditeurs et je salue surtout mon invité. Et là, ce soir, ça dit quelque chose de particulier parce que c'est une ancienne amie de Chantoux-les-Vignes que j'avais perdue de vue parce qu'elle avait déménagé longtemps avant moi. Et je l'ai retrouvée grâce à son livre que j'ai trouvé en librairie, qui est un très beau livre dont nous allons parler dans 5 minutes, qui s'intitule « Bouquets au fil du temps ». J'ai donc annoncé Danielle Zanneboni. Alors, je dois dire qu'elle avait à l'époque une activité très, très prenante à la mairie, puisqu'elle était d'ailleurs maire adjointe, qu'elle a eu pas mal de problèmes, n'est-ce pas? Même un jour, quelqu'un qui l'a menacée avec une arme dans son bureau. Puis nous avions créé à l'époque aussi une petite association pour faire peindre et faire quelques travaux manuels aux enfants de la cité qu'on était en train de construire en bas. Et un jour, nous avons eu la joie, entre guillemets, de trouver les murs de notre atelier couverts de croix gammées. On n'a jamais su pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Et alors, je viens de retrouver Danielle à travers les fleurs, et voilà ce qu'apportent entre autres les fleurs. Alors, je vais d'abord répondre à la question d'une auditrice du mois dernier qui avait demandé si on pouvait, puisque je recevais Denise-Jeanne Roland avec son livre sur l'art floral au service de la liturgie, elle demandait si on pouvait pratiquer, enfin, apprendre l'art floral liturgique à Versailles. J'avais dit que oui, mais que je n'avais pas les coordonnées exactes. Donc, c'est la Société d'horticulture des Yvelines. Le téléphone, le 01 39 75 20 50, 01 39 75 20 50, et il y a évidemment un courriel, secrétariat, excusez-moi, mais c'est comme ça que ça s'écrit, @shy-versailles.org, secrétariat@shy-versailles.org. Ah, encore tiré web. Ah non, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est le site. Bon, elle le trouvera en cherchant shy-versailles.com. Et les cours se donnent à raison d'un par mois dans une église de la région. Il y a une démonstration d'un floral, en général axé sur la liturgie du dimanche suivant. Et ensuite, un petit exposé d'iconographie religieuse autour de l'évangile du jour par Catherine de Salaberry. C'est très intéressant. Il y a aussi, une fois l'an, un stage d'un jour ou deux plus technique. Et puis, tous les deux ans, un très beau voyage. Nous sommes allés à Rome, nous sommes allés à Ravenne, nous sommes allés un peu partout, en Poitou. D'ailleurs, on a fait le Poitou roman. Et c'est vraiment très sympathique. Donc, Société d'horticulture des Yvelines. Et j'ai une petite annonce à faire, une seule, qui sera très succincte parce qu'il y a même le site, c'est organisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle, leur site est extrêmement mal fait, il n'y a aucun renseignement. Ça s'appelle Palmier Prince des Végétaux, ça se tenait du 4 juin jusqu'au 10 octobre, et ça se tient à l'Arboretum de Chèvreloup, tout à côté, on ne sort pas de Versailles. Je vais donner, alors, les samedis, dimanches, lundi, mercredi et jour férié, de 10h à 18h. Le tarif est de 4 euros, le tarif réduit est de 2 euros. Il y aura une animation intitulée Week-end sous les palmiers les 17 et 18 septembre. Je chercherai des renseignements plus précis pour en dire davantage. L'arboretum de Chèvreloup fait presque partie du domaine de Versailles et pratiquement en face par l'I2. Donc tout le monde connaît, tous les gens de la région parisienne connaissent. C'est certainement un rendez-vous très intéressant. Alors, j'ai un petit rendez-vous habituel au mois de juin. Nous parlons en général de roses. On parlera un peu de roses aussi avec vous, Daniel. Mais enfin, nous avons donc deux livres sur les roses. Alors d'abord, Rose de Roger Philips et Martine Rix. Avec un sous-titre, des roses anciennes aux créations récentes, plus de 1000 roses du monde entier, toutes illustrées en couleur. C'est à la Maison Rustique Flammarion. Alors, il y a une liste, vraiment un tour d'horizon extrêmement complet, des variétés de roses les plus populaires, et nous partons du rosier sauvage jusqu'aux dernières créations et obtentions récentes. À propos de créations récentes, dimanche dernier, on a baptisé au Petit Trianon la rose Petit Trianon. Je n'ai pas beaucoup de détails sur elle, mais Alain Baraton ira nous en parler prochainement en nous présentant deux de ses livres. Donc là, on fait le recensement de milliers et de milliers de roses. On donne des conseils de culture. Il est très richement illustré. Et bon, c'est une somme. Est-ce qu'il intéresse quelqu'un dans le studio? Parce qu'il est tellement lourd que je n'ai pas envie de le remporter. Il coûte 35 euros. Je suis désolée de dire le prix au manger de l'or. C'est complètement idiot. Mais enfin, voilà. Alors, j'en ai un deuxième.
Bon, surtout parce que ma femme adore les roses.
Ah bah, ça tombe très bien.
Et donc, elle sera enchantée.
Elle plantera sur son balcon. Alors, je vois qu'il signale un petit rosier qui s'appelle Rosier Noisette en 10 ans, qu'il est très rare dans les jardins. Et imaginez que moi, j'ai 3 rosiers dans mon jardin et l'un d'eux est un rosier noisette. C'est extraordinaire, non? Je ne savais pas que c'était une rareté, mais voilà. Alors, j'en ai un deuxième qui s'appelle très poétiquement Mignonne, allons voir si la rose, de Michel Viard. C'est une maison d'édition extrêmement sympathique, une petite maison d'édition alsacienne, la SAEP. Alors d'abord, il donne une histoire, évidemment, une technique, par lui aussi des roses sauvages, il va jusqu'aux dernières créations, on n'y échappe pas. Ensuite, un chapitre sur les couleurs et parfums de roses, alors avec un petit sous-chapitre médecine et beauté, la cuisine. On a reçu plusieurs fois Alice Caron-Lambert qui fait de la cuisine des fleurs, où elle parle souvent aussi des roses, les couleurs. On sait que les roses sont de toutes les couleurs sauf le bleu, on cherche toujours, on ne trouve pas. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous avez envie d'une rose bleue? Non, pas obligatoirement. Des hommes et des roses, alors à la cour de Versailles bien entendu, les emblèmes et armoiries. Je signale une petite ville que je connais bien, la Rossem, a 3 roses dans ses armoiries, parce qu'elle s'appelle d'ailleurs Rossem. Et les relations avec les artistes, énormément d'artistes ont eu des roses à leur nom. Ça va de Pierre de Ronsard.
C'est une spécialité de la maison d'Elvard, ça.
D'Elvard, l'autre aussi, tous font ça. La rose la plus populaire actuellement, qui est Pierre de Ronsard, qui est magnifique, a failli disparaître. Justement, Meillant devait la brûler parce qu'elle n'intéressait plus. Et c'est un rosieriste allemand ou belge, je sais pas quoi, qui l'a récupéré par hasard. Maintenant, c'est le rosé qui se vend le plus. Mais alors, ça va de Tino Rossi à Pierre de Ronsard, à Catherine Ferrier, à Colette ou à Giono. C'est vraiment très éclectique. Alors, il y a aussi des roses à usage particulier. On les met dans certaines situations quand on a besoin de palisser un endroit, ou alors des roses à bouquet. Aussi.
Les roses qui se mangent.
Et oui, des roses.
C'est à Rambouillet, il y a une pâtisserie qui fait un gâteau qui s'appelle le Rambolite, qui était la framboise.
Je ne sais pas, mais ça ne m'étonne pas.
Dessus, il y a un pétale de rose.
Un pétale, oui. On fait des sucreries, des entremets, on fait des tas de choses avec les roses. Et on utilise encore beaucoup l'eau de rose en cosmétique.
Et dans la presse aussi, oui.
Alors, et puis elle remplit un chapitre sur cultiver et soigner ses roses. Puis alors, il y a aussi toujours des petites choses très très amusantes, les légendes. Alors la création de la rose, je sais pas, on compte que Bacchus poursuivant une nymphe, la nymphe a été accrochée, la robe de la nymphe a été accrochée par un épineux quelconque, et Bacchus a pu s'en emparer, et pour remercier, il a décidé que cet arbuste serait désormais fleuri. Il a été fleuri en rouge parce qu'il avait, comme il avait bu comme un son ordinaire, il avait les joues un peu rouges. Bon, ça c'est la légende. Il y a aussi toujours des petits poèmes. C'est vraiment un très joli ouvrage. Un tableau de toutes les roses qu'on peut trouver, un lexique, un index et tout. Et il coûte, je crois, il n'est pas très cher parce qu'il coûte 19,80 €. Et alors on en arrive, parce que là c'est le gros morceau ce soir, au livre de Daniel. Bouquets au fil du temps. Alors d'abord, comment êtes-vous venu à l'art floral, en gros ?
Bonsoir. Eh bien, l'art floral, ça a été une rencontre d'amitié avec une personne qui avait un très très grand talent et qui m'a surtout conseillé de ne pas faire d'école, puisque je n'ai pas fait d'école d'art floral. Et elle m'a appris, eh bien, à faire les montages, à harmoniser les couleurs. Et de là, il s'est créé une amitié très très forte et nous avons travaillé des années ensemble.
Alors, elle vous a embarqué dans de grandes décorations. Vous me parliez d'une décoration, entre autres, à la conciergerie.
La conciergerie, alors... lorsqu'il y avait la réception du bâtonnat, de tous les nouveaux avocats, et puis d'autres grandes réceptions. Nous avons travaillé pour le château de Vaux-le-Vicomte il y a pas mal d'années, pour Courance, donc dans des domaines et un environnement fabuleux.
Courance à la côte ici, c'est un domaine que nous aimons beaucoup à Radio Courtoisie. C'est tellement beau.
Il est très beau.
Alors ensuite, donc, mais vous n'avez jamais eu le loisir d'enseigner ou ça ne vous a pas attiré ?
Non, ça ne m'a pas attiré et ça ne m'attire pas. Non. Je pense que les bouquets, c'est quelque chose qui sort du cœur et il faut laisser la spontanéité à chacun, si ce n'est que d'apprendre juste les techniques de base et après, eh bien, chacun y met son émotion.
Alors, du temps où vous étiez maire adjointe à Chanteloup-les-Vignes, évidemment, vous n'avez plus beaucoup de temps à consacrer à l'art floral.
Très
mais
peu.
Quand vous avez décidé de quitter Chanteloup, pour la suite d'un certain nombre de circonstances, vous y êtes remise.
Oui, j'ai repris parce que ça me manquait. J'étais privée.
Vous êtes maintenant dans la région parisienne, un peu plus loin de...
Oui, j'habite dans le sud Essonne.
Et vous avez un beau jardin.
Un très beau jardin, avec une belle collection de roses anciennes.
Ah. Et un beau jour, quelqu'un vous a demandé ou vous avez eu l'idée de mettre tout ce savoir au service du public et vous avez décidé comme ça de faire ce livre ou c'est venu, ou on vous l'a demandé, ou c'est venu...
Eh bien là aussi, les fleurs mènent à l'amitié et l'amitié avec une photographe de talent. Et qu'elle n'avait jamais fait de photos de bouquets, et ça l'intéressait, parce que c'est une autre recherche.
Elle porte un nom prédestiné, elle se prénomme Marie-Lys, le noir Hagenmüller. Et vous avez trouvé un éditeur tout de suite, facilement, parce que c'est pas tellement...
Eh bien, un peu par paresse.
Spécialité, en général.
Nous avons cherché au plus près, puisque on sait très bien que faire un livre demande beaucoup de démarches, de déplacements. Mmh. Mmh. Donc, nous avons cherché... dans la région, un éditeur, et on nous avait conseillé l'éditeur Vial, qui avait une grande réputation.
Qui mérite une petite mention, parce que c'est un éditeur d'art, mais spécialisé dans le bois.
Exactement. Jusqu'à ce jour, tous les livres étaient orientés vers le bois, le travail du bois. Donc c'était une première de faire...
Donc il a su vous faire confiance.
Oui, exactement.
Alors, vous l'avez conçu, moi je le trouve remarquable, mais c'est à vous d'en parler, parce qu'il est conçu d'une façon tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire que on le feuillette comme un album, mais c'est en même temps un excellent manuel qui n'a pas l'air d'y toucher, et ça c'est une petite gageure. Alors, comment vous l'avez conçu ? Comment vous avez voulu qu'il soit ?
Alors, la démarche pour ce livre, la première démarche, c'était de faire des bouquets accessibles, voilà, si je puis dire. C'est-à-dire,
les
pour les maîtresses de maison, pouvoir utiliser les fleurs de proximité. Alors, quand on est en ville, bien sûr, les fleurs du marché, des petits bouquets simples, ou si nous avons la chance, évidemment, d'être à la campagne, eh ben, les fleurs soit du jardin, soit de la campagne, soit des bois, et que ces bouquets soient accessibles à la maîtresse de maison, qui a envie de se faire plaisir.
Et toujours les fleurs de saison.
Et toujours des fleurs de saison.
Alors, donc, vous faites une petite préface qui est très... J'avais noté les quelques mots. Ce livre n'a pas de prétention particulière si ce n'est de transmettre une passion à travers les fleurs et les bouquets. Et tout est dit. C'est tout simple et tout est dit. Ensuite, bon, vous tracez un petit historique de l'art du bouquet. Et puis, vous embrayez tout de suite Alors, première partie, l'esthétique des bouquets, la forme des bouquets. Et sans avoir la détoucher, vous donnez tout de suite vos premières leçons. Le bouquet triangulaire, le bouquet rond. Mais ils ont tous une personnalité. C'est pas les bouquets tout bêtes qu'on trouve un peu partout, ou alors trop sophistiqués. On doit vous faire un reproche, on doit vous dire que c'est un peu classique.
Exactement.
Et je ne suis pas d'accord. Ce sont des bouquets de charme. Et ils ne sont pas tous classiques.
Ce sont des coups de cœur. Ce sont des bouquets de charme.
Voilà.
Alors, certes, donc peut-être partez... un peu classique, mais j'ai voulu faire du classique parce
pas
que
tous,
c'est plus,
pas tous.
Une approche plus facile.
Alors, vous partez du printemps, on passe à l'été. Alors, les bouquets de printemps, il y a un petit bouquet de pois de senteur absolument charmant. Bon, je le feuillette comme ça, mais je conseille vraiment aux auditeurs que ça intéresse de se le procurer ou de le feuilleter là où j'ai découvert, grâce auquel je vous ai retrouvé d'ailleurs, puisque je vous avais complètement perdu de vue. Et ensuite, alors, la fleur des jardins et des marchés, est-ce que vous avez un bouquet préféré ou quelques-uns dont vous aimeriez parler plus spécialement? Moi, j'en ai repéré un ou deux là. Alors, il y en a un qui m'a étonné, c'est le bouquet d'automne tout blanc. Le bouquet d'automne, je le vois plutôt très coloré d'ordinaire.
Oui, c'était ces deux bouquets qui ont été réalisés sont faits sur le même support. C'était pour expliquer qu'avec un même support ou un même vase, on pouvait créer deux atmosphères complètement différentes.
C'est là qu'on reconnaît la pédagogue, d'ailleurs, justement. Parce que là, vous montrez qu'on peut vraiment faire...
Comme avec les mêmes fleurs, dans des contenants différents, on crée également...
Alors, ça a toujours l'air posé comme ça, tout simplement. Ça n'est pas vrai, puisqu'il y a des petites techniques que vous dévoilez très simplement. Ensuite, on arrive au bouquet d'hiver, avec évidemment... Ah, puis aussi, une chose que vous aimez bien, ce sont les cartouches et les bouquets suspendus,
oui,
les bouquets
beaucoup.
Muraux. Et peut-être, on peut en parler, non pas encore, un projet de projet, non?
Peut-être un projet, pour un
livre consacré aux cartouches, ça serait une chose merveilleuse, ça. Alors ensuite, les bouquets de fleurs séchées. Alors là, bon, certaines personnes n'aiment pas, d'autres adorent, et les gardent toute l'année. Moi, je trouve qu'ils sont très bien, justement, si on n'en abuse pas.
Voilà.
Dans certains coins de la maison, ils sont quelquefois bien utiles, et puis ça permet de prolonger. Quand on a des hortensias dans son jardin, ça permet quand même de les utiliser.
Oui, je fais peu de bouquets de fleurs séchées, parce que j'ai du mal à travailler les végétaux secs. Ça manque de...
Vous avez aussi un bouquet de fleurs artificielles. Alors, ça vous permet de vous inspirer. Alors, vos fleurs artificielles, vous les procurez où? Parce qu'elles sont pas toutes très belles.
Eh bien, c'est difficile. J'en ai trouvé... j'en ai acheté beaucoup en Italie. Trousselier, bien sûr, mais elles sont horriblement...
Un petit peu.
Chères. Donc, j'ai eu la chance d'en trouver chez des fabricants à Milan, où j'ai trouvé de très, très jolies choses. Alors, il y avait de la soie, du coton, donc un choix, un bel éventail de choix, parce qu'il est vrai que la fleur dite artificielle ne supporte pas la médiocrité. Il faut quelque chose de très, très belle qualité.
Alors, elle a quand même un avantage. Moi, je ne l'aime pas beaucoup personnellement, mais de temps en temps, elle a un avantage. Elle vous permet de vous inspirer des tableaux de maîtres.
Exactement.
Parce qu'eux ne se souciaient pas beaucoup des saisons, justement, et mélangeaient vraiment n'importe quoi. Ils faisaient leurs croquis au fil de l'année, et ensuite, ils faisaient leurs tableaux sans s'occuper des saisons. Ce qui nous permet quelquefois de faire un tableau inspiré de Lina ou de Bruegel ou de... avec les quelques fleurs. Alors, soit on fait tout en artificiel, mais dans les expositions, en principe, c'est pas très apprécié. On glisse quelques fleurs artificielles là où on n'a pas trouvé autre chose.
Pour compléter.
Et puis, alors, vous terminez par les contenants, petite partie technique, mais très discrète, et puis l'outillage, le matériel et les techniques de montage. Et je vois avec une très grande joie que vous utilisez encore des techniques anciennes qu'on nous fait abandonner partout. Et ben, j'ai l'intention, personnellement, d'y revenir. Parce que, je le dis publiquement, tant pis pour celles que ça défrisera, le cône de grillage, c'est quand même très pratique.
C'est ce qu'il y a de plus robuste. Si on veut construire un grand bouquet, une grande composition, en plus, ça permet au bouquet de jaillir vraiment de son contenant. Et je pense que c'est encore... une technique qui est encore très très valable, même si effectivement elle est encore un peu maintenant ringarde, comme on dit.
Ben oui, mais j'estime qu'en matière de bouquet, il n'y a pas de ringardise, parce qu'un bouquet de charme, ça reste un bouquet de charme. C'est intemporel, un bouquet, je suis désolée, c'est... Bon, regardez ça, ce petit paravent d'arômes là, avec des bambous. C'est extraordinaire, ça. C'est tout simple. Il y a 5-6 arômes. Hein,
oui, et aussi, pensez qu'on peut très bien créer un décor avec très peu de feuillage ou de fleurs.
Ce nœud là.
Si vous me permettez, Cécilia, vous dites ça en montrant le livre, mais oui, je pense que ça doit échapper à quelques-uns de nos auditeurs.
Qui n'ont pas la radio.
Encore un de ces livres merveilleux, Book au fil du temps, avec effectivement, sur la page de gauche, une composition végétaux branches de genêt nouées par des feuilles d'aspidier.
C'est pas extraordinaire, ça?
Des petits bouquets de feuilles d'érable, c'est ravissant.
C'est
et puis
rien,
alors à côté, les arômes, c'est splendide. Hein, les arômes.
Oui.
Arômes,
arômes.
C'est ravissant, on dirait une flûte de pan.
Avec 6 arômes, vous ne savez pas comment les piquer dans un vase. Ça tient pas, ça, là, c'est tout droit, ça fait comme un petit paravent japonais.
C'est bien talentueux.
Et en plus, alors la présentation est tout à fait imbraquable. Je crois que vous avez eu un petit problème avec votre éditeur pour le choix du papier, mais je crois que c'est vous qui avez eu gain de cause et vous avez raison.
Eh bien, au début, oui, l'éditeur voulait évidemment faire un papier blanc, mais je trouvais que c'était un peu froid.
Il faut un papier crème.
Voilà. Je pense que c'est
pour le papier
d'élégance. Exactement. Voilà. Et ben écoutez, je sais pas moi, il y en a pas un que vous aimeriez vous sauter. Un bouquet. Ah, la prochaine fois. Mais quand je vais en voiture, je vous apporte un bouquet. Mais quand je vais en voiture, pas par le train. Alors aujourd'hui, non. Là, il y a des petites choses que j'adore. Oui, vous faites un grand usage aussi de contenants qu'on peut qualifier de naturels, des poivrons.
Des poivrons.
Voilà, regardez, ces trois petits bouquets, chacun dans un poivron rouge, un poivron vert, un poivron jaune.
Et est-ce que ça tient plus longtemps que la photographie? C'est ça la question.
Ah ben oui, si vous mettez de l'oasis, si vous mettez de l'eau, et puis
de
si vous vaporisez vos bouquets, oui, ça tient. Oui.
C'est vraiment joli.
C'est ravissant.
Ces photos sont
splendides. Vous semez une table de petites choses comme ça et ça coûte
elle
rien.
Presque,
des poivrons.
Je suis sûr que la photographe arriverait à nous rendre presque beau. Goffin.
Alors je rends hommage à la photographe. Parce que, justement, expliquez un petit peu comment vous y êtes pris. Parce que c'est rare des photos. Souvent, on a très belles. On a des bouquets qui sont très beaux, mais qui ne sont pas photogéniques. Et les photos ne rendent rien. Ou alors des photos magnifiques, mais le bouquet, c'est du toc. Ils ont ça. Tout a été piqué comme ça en vue de la photo. Vous êtes incapable de le refaire et ça ne tient pas. Alors, vous
eh bien,
avez
mon
ami
photographe Marguis a travaillé en lumière naturelle. Il n'y a aucune lumière artificielle. Donc, il est évident que ça a été un peu un jeu de cache-cache avec les nuages et le soleil parce que nous attendions d'avoir une belle luminosité. Il y a certains bouquets que nous avons pris plutôt le matin à l'extérieur sur la terrasse parce qu'il y avait cette belle clarté du matin, cette belle fraîcheur du matin. D'autres bouquets que nous prenions le soir, au moment du coucher du soleil. Donc nous avons travaillé qu'en lumière naturelle.
Et pas de projecteur.
Ah non, du tout.
Donc en général, en studio, c'est le premier objet qu'on utilise. Non.
C'est vraiment magnifique. Alors, il faut lire ce livre. Il faut le regarder.
Oui, en plus, c'est un livre miraculeux, parce que vous n'étiez pas là quand j'ai expliqué. Je l'avais trouvé dans un rayon de libraire, dans un rayon de botanique, en gros, d'horticulture, de bouquets. Et j'ai vu Daniel Zanneboni. Je n'avais pas vu Daniel depuis 10 ans, 12 ans.
Oh,
vous avez quitté Chanteloup.
Vous étiez à l'école communale ensemble,
non, à Chanteloup. Nous avons eu des aventures ensemble. Ben oui.
On ne poussera pas l'indiscrétion, d'ailleurs on n'a pas le temps.
Non, puis c'est pas intéressant, mais c'était un peu cloche-merde.
Merci beaucoup Cécilia. Est-ce que vous avez connu ma tante Marie-Louise à Saint-Cloud, à Chanteloup, je veux dire?
Oui, ma fille aînée a même été son élève.
Et les références du livre, est-ce que vous les connaissez?
Alors, on va vous les donner, oui, j'avais oublié. Alors, Bouquets au fil du temps de Daniel Zanneboni, avec des photos de Marie-Louise Lenoir Hagen-Müller, aux éditions Vial. Il coûte 35 euros. Et il est vraiment magnifique. Alors maintenant, je vous remercie de votre accueil.
C'est moi qui vous remercie d'être venu de si loin.
Oui.
De votre Poitou.
Un petit peu grâce à vous, voyez, puisque grâce à l'émission, j'ai retrouvé Daniel. Et je donne rendez-vous aux auditeurs le 6 juillet.
Très bien.
Je ne connais pas encore mon invité.
Merci Cécilia, merci madame.
Merci de votre accueil.
Eh bien, on ne quitte pas
bonsoir, mesdames.
Le domaine de la beauté, bonsoir. Puisqu'on se tourne vers le marquis qui va nous donner rapidement des nouvelles du monde qu'il aime à fréquenter.
Je vais vous faire une fleur, je vais vous dire donner quelques nouvelles. D'abord, je vous remercie de me donner une minute le soir où j'ai rien à dire, c'est tout à fait sympa.
Ce soir, on a décidé de se payer le marquis.
Bon, et je vais quand même en profiter pour faire de petites mises au point, puisque
que comme je fréquente un peu les mêmes milieux que vous,
comme
en
la
gros,
photographe de Manama.
Il y a plein de gens qui me tombent dessus, non, on vous entend pas. Alors il faudrait expliquer les choses. Moi je suis pas là d'une face, je suis là comme ça, comme un peu le caillou dans la chaussure. Et la minute, c'est pas quelque chose de tout à fait formel. Mais si un jour on a un invité qui se plante sur le périphérique et qu'on a un trou de 10 minutes, là je servirai à quelque chose. Mais sinon je suis là comme ça pour balancer mon petit grain de sel et sans plus. Alors les nouvelles du monde, eh ben je vais vous dire, chef, je suis en train de préparer un papier sur ce que je pense des représentants de la monarchie en France en ce moment. J'espère que vous me le prendrez dans le Libre Journal. C'est les gentils pour personne, donc c'est méchant pour tout le monde, donc ça va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc pose-moi des questions, Patrick, ce sera plus simple.
Moi, je voudrais que vous disiez aux auditeurs ce que sa sainteté Benoît XVI vous a dit quand vous vous êtes jeté à ses pieds il y a quelques jours
Il y a quelques jours. Le pape m'a simplement pris par le coude pour me relever, comme ça se fait, parce qu'il a encore la vigueur pour le faire, et il m'a simplement dit « Voulez-vous être debout avec moi ?» Et là, j'ai pas su quoi répondre, mais bien entendu, je suis debout avec lui.
Une jolie formule, hein.
N'est-ce pas ?
Il n'a pas peur, il est debout.
Voilà, je n'ai pas peur et je suis debout.
Et lui qui va parler du roi,
une dernière chose, il y a un auditeur qui avait posé une question, et on lui avait pas répondu pendant l'émission. Il a réussi à trouver mon numéro de téléphone dans le Minitel, c'est très bien. Donc je lui ai répondu. Alors ceux qui se posent la question, j'ai dit quelque part, je crois que c'est dans le papier, que j'étais commandeur d'ordre pontifical de Pie IX. Alors tout le monde se demande pourquoi. Vous savez, l'ordre pontifical de Pie IX, c'est un peu le mérite agricole du Vatican. Mais quand j'ai fait mon service militaire, j'ai rendu quelques services au moment du pèlerinage militaire en organisant des tas de choses. Et puis j'ai fait d'autres choses. Alors un jour, on vous donne une récompense. Voilà.
Très bien. Deux mots sur Sartre, parce que vous avez fait une découverte, Goff, sur Sartre, qui vous a laissé pantois. C'était une canaille.
Vous savez que, puisque vous avez sa photo encadrée au-dessus de votre lit, que c'était hier le centenaire de Jean-Paul Sartre. Il aurait eu 100 ans exactement. Et alors, vous avez bien voulu me charger pour le Libre Journal de lui faire sa fête. Et j'ai repris un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années qui s'appelle Une si douce occupation, avec une ironie non moins douce. Il raconte donc l'occupation de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Et effectivement, j'en suis renversé, quoi, parce que je l'ai lu ces derniers jours et je suis en train de rédiger, quoi, un concentré de cette imposture incroyable. C'est-à-dire que, pour résumer, puisque on doit céder le micro maintenant, pour résumer, Sartre a eu l'attitude de collaboration la plus vile et la plus vole qu'on puisse imaginer, et il s'est mis à épurer en août 44 avec encore sur les lèvres le champagne avec qu'il sablait avec les représentants de la censure allemande à chaque fois qu'il montait une pièce à Paris avec leur approbation et leur bénédiction. Et il a fini, comme on le sait, dans les années 70 par rejouer la chose, par monter un autre théâtre avec les jeunes Mao Spontex, La Cause du Peuple, Julie et compagnie, en se présentant en résistant. Contre qui ? Contre le tyran Pompidou. Bon, alors voilà le résumé d'une belle carrière. Si sa philosophie, que je comprends mal, l'être et le néant m'est tombé des mains en terminale et je l'ai jamais ramassé, si sa philosophie est à l'aune de son comportement, s'il faut juger l'arbre à ses fruits, comme dit l'écriture, ben je pense que j'ai pas raté grand-chose. Ce sera dans le Libre Journal, le prochain Libre Journal. Des milliers de gens qui sont à l'écoute sont sur le point de s'abonner depuis une éternité, c'est ce qu'ils me disent tous quand je les rencontre. Alors je leur dis, vous faites votre chèque de 110 euros et vous l'envoyez FISA à SDB 4 places France List 75010 Paris.
Vous pouvez mettre un mot gentil pour ma petite femme que j'embrasse d'ailleurs, ça lui fera plaisir et elle vous répondra en plus.
On est tous sous ton balcon, Daniel.
Voilà, installez-vous messieurs si vous voulez. Je vais, tenez mon cher Bernard, prenez la place du maître. Mon cher Daoud, venez vous asseoir là. Je ne sais pas, il a une répulsion, semble-t-il, notre camarade Daoudal. Sortez, messieurs, pour que messieurs puissent s'asseoir. La vie est compliquée, vous savez, on est en train de faire... Comment s'appelle ce petit jeu ? Oui, Bernard, si vous pouviez avancer d'un poil, vous m'obligeriez.
Tout le monde le fait, le jeu des chaises musicales.
Non, c'est pas le jeu des chaises, vous savez, c'est le jeu de la poussette, quand on a une petite plaque avec les... Il faut écrire des mots, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une petite plaque comme ça, avec des lettres qui bougent vers le haut, vers la gauche, vers la droite. C'est à ça qu'on joue, on essaie
de faire tenir un certain nombre de gens.
Voilà, alors
insuffisant de chaises.
Je vais parler brièvement, mais d'une façon instructive. Nous avons décidé, Bernard, Anthony et moi-même, avec Jeanne Smith et autres complices, de consacrer régulièrement une deuxième partie d'émission à une technique qui d'ailleurs un peu découle de la première partie de l'émission, qu'on pourrait appeler la réplique. Qu'est-ce que c'est que la réplique ? Bernard Anthony va vous l'expliquer tout à l'heure. C'est fondé sur une idée qu'il a eue il y a maintenant 2 ans, qui était de faire un dictionnaire de la réplique, consistait à trouver des arguments pour répondre aux oppositions qu'on nous présente, aux reproches qu'on fait à la droite nationale ou aux patriotes. On a trouvé que ce serait intéressant de le faire, non pas d'une façon globale et désincarnée, mais d'une façon factuelle, en prenant les questions qui sont les questions du débat actuel. On va éprouver la technique de cette émission pour la première fois. Et comme c'est Bernard qui a été l'inspirateur de ce dictionnaire de la réplique, je pensais que c'était à lui d'être l'animateur de cette partie d'émission. Et donc, chose rarement vue, je vais me taire.
Bien, voilà une très bonne nouvelle. Merci Serge. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Voilà, ce que nous allons essayer de faire est une œuvre commune, chers amis auditeurs. Commune entre vous, moi et les invités à ce journal. Je remercie du fond du cœur Serge. Les auditeurs savent ma vieille amitié pour lui. Elle est longue, bourrée d'anecdotes. Quelquefois, certains me disent, mais vous avez des divergences avec Serge de Bekech. Ben, je dis oui, c'est le seul moyen de ne pas nous fâcher, parce qu'imaginez un seul instant si Serge et moi, on avait les mêmes idées. Surtout, ça serait dramatique, parce que nous n'aurions plus rien à nous dire, alors ça commencerait par la bouderie, et puis on se fâcherait. La réplique, ça va être un peu pareil. Ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que nous allons essayer de prendre à bras le corps l'actualité dans ces événements et de remonter à ce qui doit l'éclairer. Nous allons faire une œuvre pédagogique ensemble. Et c'est ainsi que, d'ores et déjà, je lance un appel pour la prochaine émission. Qu'à la suite de celle-ci, les auditeurs veuillent bien nous écrire. 70 boulevard Saint-Germain, à la réplique, au centre Charlier, éditeur du dictionnaire de la réplique, nous disant ce qu'ils ont relevé d'affreux, de mensongers, d'ignobles, de désinformations, et ce qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons des parents d'élèves qui nous écrivent en disant, dans le livre de ma petite ou de mon petit, voilà ce que l'on dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tous les parents n'ont pas les outils, n'ont pas les armes pour répondre. Eh bien, nous allons donc bâtir ensemble ce qui deviendra, cher Serge, si tu le veux bien, le deuxième volume du dictionnaire de la réplique. Ça serait donc un travail, au fond, en collaboration avec celles et ceux que je vais vous présenter, Radio Courtoisie et le Centre Charlier et les éditions de Troyes de Bouillon, éditeurs du dictionnaire de la réplique. Ce soir avec moi, Jeanne Smith. Vous la connaissez, elle est journaliste à présent, elle est directrice gérante, et elle a le poids énorme de la survie de ce quotidien, ça n'est pas si simple, elle doit le rénover probablement, le renouveler, lui donner beaucoup d'oxygène, avec vous, amis auditeurs aussi. La presse nationale est rare, c'est un petit club, l'admirable journal de Serge, Reconquête, dans lequel vous trouvez notamment la plume de Yves Daoudal, qui est avec nous aussi ce soir. Yves Daoudal, c'est l'éditorialiste de National Hebdo, c'est le rédacteur en chef de Reconquête, c'est-à-dire le complice de, au fond, de toutes mes aventures intellectuelles. Et puis, avec nous, Richard Haddad, qui est l'éditeur des éditions Godefroy de Bouillon, mais que les pas très vieux encore connaissent bien pour avoir été, car il est encore très jeune, Richard, l'animateur hors pair du Cercle National des étudiants de Paris. Voilà, chers amis. Alors, avant de poser des questions, parce qu'il faut bien amorcer la pompe, comme on dirait, je vous voudrais moi-même l'amorcer, si vous le voulez, en vous demandant de participer à une réplique ô combien nécessaire. C'est la réplique à la désinformation qui est faite aujourd'hui sur l'Algérie française. Cette désinformation bat son plein dans toutes les émissions de radio Complicité Félaga, de télévision Porteur de Valises, et nous allons avoir une occasion d'affirmer à la fois notre solidarité avec les victimes de l'abandon de l'Algérie et de témoigner de ce que nous voulons inscrire dans l'avenir, le refus de la désinformation pratiquée aujourd'hui. C'est ainsi que nous serons le mercredi 6 juillet à partir de 9h30 à Marignane, au cimetière Saint-Laurent, où l'on va inaugurer donc une stèle à la mémoire des 113 fusillés et combattants tombés pour que vive l'Algérie française. Je rappelle donc Marignane, 6 juillet, 9h30. Je remercie le maire de Marignane d'avoir permis cette chose-là. C'est sous l'égide de la DIMAD, association qui regroupe des anciens détenus pour motif d'honneur d'Algérie française. Et voilà un bel acte de réplique que, naturellement, nous approuvons tous, je crois. Il suffit de voir combien le combat pour l'Algérie française était motivé lorsque nous avons, comme nous, analysé ce qui s'était passé à Perpignan. C'est la une de Reconquête. Nous avons fait un montage des journaux de Perpignan. Alors, cela, voyez-vous, ce n'est pas notre réplique, c'est la réplique des événements. À Perpignan était annoncé, comme dans beaucoup d'autres villes, une fête des immeubles, une fête des voisins. C'était admirable. Alors, on pourra voir en couleur, voyez, la Perpignan, ça devait baigner dans l'huile d'olive. Il y avait là donc des distributeurs de râles, locum, de couscous gratuits à tous les coins de rue. Les gitans gratouillaient la guitare un peu partout, c'était merveilleux. Et c'était pour le mardi 31 mai 2005. La presse du petit matin de ce jour-là nous donne, c'est l'Indépendant, le journal local, Perpignan s'embrase, Perpignan à feu et à sang. Dans les pages intérieures, rue Fauche, désolation au petit matin, mais heureusement, la police en force, oui c'est un titre aussi, la police en force, 1000 hommes pour la sécurité, la police ne suffisait pas, alors on a fait venir l'ambassadeur du Maroc, et c'est ainsi que l'ordre de Monsieur Sarkozy a été rétabli à Perpignan par l'ambassadeur du Maroc. Je pense que cela doit rappeler à quelques-uns d'entre vous, chers auditeurs, un certain nombre de choses. Cher Jeanne Smith, vous avez un coup de gueule. On va commencer par un coup de gueule de Jeanne Smith. C'est toujours en finesse, mais vous allez voir. Alors, je crois que ça va être bien.
Je vous remercie. Je vous dis tout de suite que les coups de gueule actuellement ne manquent pas, mais peut-être que celui qui est le plus présent dans l'actualité, c'est la fameuse histoire du sujet sur l'avortement au bac, dont Radio Courtoisie a déjà parlé, mais je voudrais en dire deux, trois mots parce que vraiment, ça m'a fortement indignée. On a demandé à des élèves de première qui avaient un sujet au choix, mais qui, pour certains, n'avaient pas du tout révisé l'autre, qui était le seul sujet difficile de l'épreuve, on leur a demandé de justifier la légalisation de l'IVG en France sur la foi d'un document, un document donc sorti du Monde, ça vous dit tout le sérieux du dit document. Ce document soutenait par exemple que l'IVG n'avait eu aucune incidence sur la démographie et contenait d'autres joyeusetés de ce genre. Le sujet était bourré donc de documents anti-scientifiques sur lesquels ces pauvres élèves de première littéraire étaient priés de disserter en expliquant pourquoi le stérilet est un bon contraceptif, ce qui est faux, le stérilet est un abortif. Ils étaient priés d'expliquer en quoi l'IVG était parfaitement légal et qu'il était normal qu'elle le soit. Ça m'a fortement indignée et à double titre, je dirais, parce que à travers cette épreuve qui a été versée dans le débat public et qui heureusement a provoqué des réactions, à travers cette épreuve, on a pu constater l'indigence extraordinaire de l'épreuve du bac, puisque ces élèves pouvaient se contenter de recopier les documents qu'on leur donnait. Ce faisant, en recopiant des données fausses, anti-scientifiques, et puis surtout, contrevenant éventuellement à leur foi et à leur certitude scientifique la plus profonde que l'embryon est un être humain et que l'IVG le supprime, le tue, eh bien, en recopiant ces informations, tous ces élèves se sont fait complices du mensonge et ont été influencés par le mensonge. Voilà.
Et on a vu, bien sûr, arriver au secours de ce sujet, alors qu'il avait peut-être été choisi, alors qu'il n'était pas encore ministre de l'Éducation nationale, Monsieur de Robien. Je crois que là, Yves Daoudal aurait peut-être quelque chose à dire sur le personnage.
Oui, parce que c'est la dernière information en date sur ce sujet-là, c'est l'intervention de Gilles de Robien, donc nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui dit tranquillement que c'était une épreuve scientifique, pas philosophique. Et contrairement à ce qu'on a dit, ce n'était pas une épreuve philosophique où on aurait demandé un avis sur l'IVG. Il s'agissait simplement de restituer le cours sur ce sujet. Ce n'était pas une épreuve philosophique où on aurait demandé un avis sur l'IVG, sauf que la question qu'on posait au candidat, il fallait qu'il dégage des arguments en faveur de l'autorisation légale de l'IVG en France. Donc c'est bien philosophique et même politique d'ailleurs, et dans un seul sens, dans le sens de dire pourquoi il faut légaliser l'IVG, pourquoi c'est bien de légaliser l'IVG. Alors ça, c'est Gilles de Robien. Gilles de Robien qui est le dernier ministre UDF, qui est le type même des démocrates chrétiens. Je rappelle que ce sont ces gens-là qui avaient monté l'affaire Boutilionnet au Parlement européen, enfin à la Commission européenne.
Oui, Richard Haddad veut intervenir.
Moi, je me demande si quelques élèves dans leur dissertation avaient émis une opinion différente de ce que attendent ceux qui ont proposé ce sujet. Quelle serait leur note? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le autrement dit, est-ce qu'on a le choix lorsqu'on est aujourd'hui lorsqu'on passe son bac aujourd'hui de dire autre chose que ce qui est attendu? Ou ne risque-t-on pas d'échouer directement avec un zéro?
Nous allons peut-être voir cela, car des élèves l'ont fait, ils ont répondu l'avortement tue, tout simplement, sans aller plus loin. Ils seront peut-être en mesure de nous communiquer leur note à cette épreuve.
Oui, alors là, je lance un appel à ces élèves-là. S'ils veulent être défendus des associations, se sont levés pour cela. Mais exceptionnellement, la Griffe, 70 boulevard Saint-Germain, prendra cette défense en compte. Nous réunirons nos avocats, parce qu'il va de soi que là, nous sommes dans un procédé objectivement totalitaire. C'est un procédé stalinien, c'est un procédé hitlérien, sous la houlette de Monsieur de Robien.
C'est une persécution
anticatholique, une nouvelle menée par ce gouvernement dit de droite. Là, je lance l'appel aux parents d'élèves qui sont là pour qu'ils entrent en résistance comme leur conviction les y invite.
On leur demandait de justifier l'avortement.
Oui.
Donc s'ils répondaient que c'était pas bien, ils étaient en dehors du sujet.
Ils étaient hors sujet.
Il fallait justifier hors sujet. Je pense que nous sommes là dans un cas qui fera école, sur lequel il faut se battre, et nous battrons avec toutes nos organisations et avec, je le sais, l'appui de Radio Courtoisie et notamment de l'émission de Serge de Bekech. Yves Daoudal, vous aviez aussi un coup de gueule à donner ce soir.
Oui, un coup de gueule à propos du Saint-Suaire, puisque depuis hier, il y a un nouveau montage sur le Saint-Suaire, à partir d'un article, d'un dossier de Science et Vie qui, paraît-il, n'est même pas encore paru. On en parle à la télévision maintenant, partout et dans tous les journaux. Donc, je peux vous lire le début de la dépêche de l'AFP qui a parlé de l'affaire. La science a marqué une nouvelle victoire contre les partisans de l'authenticité du Saint-Suaire de Turin. La science a marqué une nouvelle victoire, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de victoires. Et alors, la nouvelle victoire, c'est que Science et Vie a demandé à un médecin de Marseille, c'est sans doute le médecin de Marseille qui avait proposé à Science et Vie, de fabriquer un Saint-Suaire. Et il a dit rien de plus facile que de fabriquer un faux Saint-Suaire. Je vais vous le faire. Il suffit en quelques minutes, il vous fabrique un Saint-Suaire. Il l'a fait. Je l'ai vu à midi à la télévision le faire. Donc il met un lin mouillé sur un bas-relief représentant un visage. Il badigeonne le tout avec de la rouille. Et il sort le linge et il montre, voilà, le Saint-Suaire, c'est exactement la même chose. Alors c'est une vieille supercherie, c'est pas seulement une supercherie, c'est une vieille supercherie. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On remet à l'honneur des vieilles lunes, des choses qui ont été réfutées depuis très longtemps. Et c'est là-dessus qu'insiste beaucoup notre ami Daniel Raffard de Brienne, qui a justement commencé toute une série de petits livres tout à fait intéressants sur la désinformation autour de ceci, de cela. Il a fait justement son premier son premier fascicule sur la désinformation autour du Saint-Suaire. Et le deuxième, c'est la désinformation autour de Jésus, ou je ne sais plus comment c'est exactement la formulation. Mais il insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que tout ce qu'on nous raconte maintenant, c'est toujours comme les fameux trucs de Jacques Duquesne, par exemple, sur le Christ ou sur Marie. Ce sont des vieilles choses qui datent le plus souvent des premiers siècles de l'ère chrétienne. Et pour les derniers qui datent du 19e siècle, mais il n'y a strictement rien de nouveau. Et Raffard de Brienne, avec humour, on leur demande toujours, mais essayez d'inventer quelque chose plutôt que toujours nous rabâcher les mêmes mensonges et les mêmes impostures. Alors là, c'était évidemment une totale imposture qui a été réfutée depuis longtemps. C'est très facile. Puis si vous mettez un linge mouillé sur une statue, Soit c'est une vraie sculpture de visage, et dès que vous remettez le linge à plat, l'image est extrêmement déformée. Et n'est qu'à penser au nez, par exemple, si vous mettez le nez sur le linge, si vous mettez le linge à plat, le nez va être complètement épaté. Et si vous le faites sur une sculpture, sur un bas-relief, donc assez plat pour que ce soit pas trop déformé une fois le linge remis à plat, à ce moment-là, vous n'avez plus l'image en trois dimensions, vous n'avez plus le modelé du visage qu'on voit sur le Saint-Suaire, vous n'avez plus du tout ce modelé. Et en plus, vous n'avez pas, alors ça, là, c'est une réfutation relativement récente qu'on peut faire à cette vieille hypothèse qui a été faite depuis longtemps. Il y a une réponse nouvelle, c'est par la photographie stellaire où on a remarqué que l'image du Saint-Suaire est une image en trois dimensions. Or, l'image qu'on peut obtenir en mettant un linge sur une sculpture, quelle qu'elle soit, ne sera jamais en trois dimensions. Donc, c'est une absurdité. Et donc, l'AFP dit « La science a marqué une nouvelle victoire contre les partisans de l'authenticité du Saint-Suaire de Turin. » Et tous les radios, les télévisions reprennent ça en cœur. Et c'est, voilà.
Serge de Becquet, je voulais dire un mot là.
Je veux dire simplement, c'est dans le droit fil de ce qu'on disait en première partie d'émission, c'est-à-dire c'est pas la responsabilité, c'est l'émetteur de la fausse information. Mais si cette fausse information peut être émise et reçue, c'est tout simplement lié à l'ignorance phénoménale du destinataire de l'information. Parce que quiconque a lu deux livres, soit les livres de Raffard, soit les livres d'Upinski, le livre d'Upinski sur la science à l'épreuve du linceul, c'est très bien que cette carabistouille du linge rouillé, ça tient pas une seule seconde. Et je n'hésite pas à dire que Monsieur Blanc-Rue, qui a relancé ce truc dans Science et Vie, est un escroc intellectuel. Je pèse mes mots, un escroc intellectuel. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ce qu'il est un pur et simple mensonge. Les gens de Science et Vie, qui sont des francs-maçons majoritairement, savent très bien que ce sont des purs et simples mensonges. Mais ils ne font cela, ils ne peuvent le faire que parce qu'ils savent aussi que leurs lecteurs sont des imbéciles, des ignares et des gens qui sont prévenus et qui vont avaler n'importe quelle connerie sous prétexte que c'est estampillé Science et Vie. Et c'est ça qui est dramatique. C'est pas impunément qu'on fabrique des élèves qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Après, on a des lecteurs de journaux qui avalent n'importe quelle stupidité, n'importe quel mensonge, tout cru, parce qu'il y a une estampille science dessus. Et la première phrase que nous citait Yves Daoudal tout à l'heure, victoire de la science, ça c'est une grande tradition initiatique. Le démon, quand il se manifeste, il est obligé de se démasquer. Et on aurait pu dire que c'est une victoire de la science, point. À la ligne, puisque chaque avancée scientifique est une victoire. Non, on dit bien que c'est une victoire de la science contre ceux qui y croient. Donc on est en guerre. Et la victoire de la science, c'est ridicule. Les travaux qui ont été faits jusqu'à présent ont démontré de façon absolument définitive que le linceul était quelque chose qui était inexplicable scientifiquement dans l'état actuel de nos connaissances, ce qui a permis à Upinski de faire ce travail dans lequel il dit quand toutes les démonstrations sont impossibles, quand une position s'oppose à toutes les autres positions, elle est forcément fausse. On ne peut pas avoir raison tout le temps contre tout le monde, c'est impossible. Et en tout cas, un résultat scientifique ne peut pas s'imposer par lui-même contre tous les autres. Et quand on fait l'ensemble, ce qu'avait fait Lipinski, quand on énumère l'ensemble des découvertes qui ont été faites sur le Saint-Suaire et qu'on y oppose la petite escroquerie minable de prestidigitateur ringard de sous-théâtre de province qu'a fait ce prétendu médecin méridional, eh ben, lui est ridicule, il est déshonoré. Monsieur Blanc-Rue est déshonoré. Et c'est ça la punition du ciel. Faut pas attendre que la foudre du ciel s'abatte sur ces escrocs moraux. Leur punition, c'est qu'ils sont ridicules et déshonorés.
Merci. Richard Haddad, vous aviez, vous aussi, parce qu'on va aborder beaucoup de questions encore, mais vous avez votre coup de gueule. On a commencé par les trois coups de gueule, alors le troisième.
Le troisième, oui, mon coup de gueule à moi, ça date de samedi dernier. Là, j'étais dans le 7e arrondissement de Paris et je découvre une manifestation. Et puis je vois pas mal de personnes défiler avec un t-shirt marqué dessus Life Parade. Alors, ça m'a interpellé, Life Parade, tiens. Bon, j'ai quand même compris qu'il s'agissait de vie. Et voilà, tiens, ça doit être quelque chose contre l'avortement, mais ça me paraissait bizarre d'appeler ça Life Parade. Pour moi, j'ai vite compris que effectivement c'était. Alors, j'ai vu les slogans, ça parlait de famille, mais sans trop se mouiller. Alors, en dehors du mot famille, j'ai rien vu. Je cherchais le mot avortement, euthanasie, etc. J'ai rien vu. Et puis surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette musique techno qui accompagnait le défilé, la parade, comme ils veulent bien. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on utilise toujours des mots anglais pour ce genre de manifestation. Alors, ce que je ne supporte pas, ce que je n'accepte pas plutôt, c'est que l'on utilise les méthodes et la mise en scène de nos adversaires pour les contrer. C'est s'avouer vaincu d'avance. Parce que alors, l'argument de dire, alors, je ne sais pas ce que pense. L'argument utilisé, c'est de dire ah mais cette musique là est appréciée chez les jeunes et la majorité, ce qui est d'ailleurs complètement faux. Je ne sais pas sur quoi on se base pour dire que tous les jeunes aiment la techno. Et puis quand bien même si nos enfants, si nos jeunes vont dans une mauvaise direction, on va pas les suivre. On leur dire bah très bien. Alors si mon fils va voler, si c'est la meilleure façon de lui faire comprendre quelque chose, lui dire vas-y vole, on lui dit allez-y vas-y vole. Enfin bon. Et puis surtout lorsqu'on est en train de défendre une idée, on essaie de démontrer que cette idée est rationnelle, elle est intelligente, etc. Et quand on a honte de ses propres idées, c'est-à-dire qu'on n'affiche pas, on a un peu peur de parler d'avortement, il ne faut pas trop avancer parce qu'on risque de passer pour des extrémistes. Alors comment voulez-vous convaincre l'autre si vous-même, vous avez honte de vos propres idées ? Il faut commencer déjà par en être fier, les expliquer de façon intelligente, et c'est comme ça que l'on convainc l'autre. C'est pas du tout en se cachant, en avançant petit à petit, en ayant peur de dire exactement ce que l'on pense.
Voilà, mais est-ce que cette jeunesse n'a pas besoin du bruit, de la drogue qui est le bruit ? Yves Daoudal, vous qui êtes par ailleurs, on le sait trop peu, hein, mélomane et un commentateur de musique sous d'autres plumes, même sous d'autres noms, qu'en pensez-vous?
En fait, je pense effectivement la même chose que Richard Haddad sur le sujet. Bon, d'abord, pour moi, la techno, c'est pas du tout de la musique. Je crois pas non plus que la majorité des jeunes soient des fans de techno, même si ça les amuse de s'éclater sur de la techno de temps en temps, c'est pas vrai que c'est leur musique favorite. Et en plus, puis la question n'est pas là de toute façon, la question c'est que c'est pas absurde, malheureusement, c'est scandaleux de reprendre les techniques de ceux qu'on veut combattre, qu'on s'affiche tel qu'on est. Alors, les gens qui ont organisé ça, ce sont pas des fans de techno non plus. Et ce sont des gens qui sont contre l'avortement et qui le disent pas dans la rue. Alors pourquoi ils vont dans la rue en appelant ça Life Parade? Pourquoi pas la parade de la vie? Et pourquoi pas employer le mot français?
Parce que je crois que cet emploi massif des décibels dans les boîtes de nuit et partout crétinise toute une génération, parce que les médecins savent tous pertinemment qu'à la longue c'est le cerveau qui est atteint par cette intensité du bruit qui est tout à fait anormale. Nous ne sommes pas faits pour résister à de telles choses, à tel point que si l'on enferme quelqu'un en subissant comme ça un bruit de techno pendant quelques journées, il sortira fou. Jeanne Smith veut intervenir.
Il se trouve que j'étais là sur le parcours avec mes trois enfants qui ont 9, 6 et 3 ans. Et bon, pour des raisons professionnelles, nous avons suivi un petit peu le défilé. Leur premier cri et leur dernier cri, ça a été « Maman, on s'en va !» Ils étaient affolés par le bruit, par l'horreur, par cette espèce d'ambiance infernale. Et je peux témoigner que les pauvres gens qui étaient là, il y avait énormément de jeunes, et gloire à eux, c'était très bien qu'ils soient là. Mais il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes. Ils se sont déplacés, bravo, mais ils avaient un air de tristesse épouvantable. Après, je dois préciser qu'ils se sont retrouvés devant les Invalides. Là, ils avaient de la musique sympathique, des discours intéressants. Bon, ils ont, c'était pas complètement nul, il faut pas le dire. Mais sur cet aspect-là, là, je partage totalement l'opinion de Richard Haddad et celle d'Yves Daoudal. C'était proprement infernal.
On va peut-être passer à la politique. On va peut-être passer à la politique et naturellement, on a beaucoup parlé sur cette antenne du bilan du non, mais je pense que nous pouvons apporter nos propres lumières et répliquer un certain nombre de choses. Jeanne, peut-être voulez-vous commencer.
Alors, selon votre demande, j'ai épluché un petit peu la presse ces derniers jours pour voir ce qui allait me faire bondir. Et une des premières choses qui m'a vraiment interpellée, c'est le dernier numéro du Point. Claude Imbert fait le bilan du non français. Et voilà ce qu'il en dit. Il est pour l'Europe détestable, plus détestable encore que les Cassandres du oui ne l'avaient annoncé. Et il ajoute, Claude Imbert, je recite, sur l'échiquier européen, le plongeon de Paris étant magistralement les influences croissantes de Londres et donc de Washington. Alors, plusieurs remarques. Si le bilan du non est détestable, c'est qu'il a été totalement confisqué et que les gens qui représentent désormais la France en Europe sont des partisans du oui qui sont des losers. Pardon, j'emploie un mot anglais, je ne devrais pas. Ce sont des perdants, ils ont été battus et ils sont tous là en train de défendre la France, prétendent-ils, alors qu'ils ne savent pas représenter ce que ce nom veut dire, ce nom national, on l'a bien dit. Et alors, quant à l'influence de Londres et de Washington sur l'Europe, c'était joué d'avance, Tony Blair est président pour 6 mois. Washington a son influence sur l'Union européenne depuis bien assez longtemps. Je crois que le nom n'y a strictement rien changé. Peut-être que ça ira un peu plus vite, un peu moins vite, je n'en sais rien. Mais le nom est confisqué.
Je voudrais tout de même ajouter ceci, c'est que là, il y a un immense mensonge dans les rapports de la question européenne avec les États-Unis. Parce que les États-Unis étaient partisans du oui. Ils l'ont sans cesse dit et répété. Et les États-Unis, comme l'État d'Israël, d'ailleurs, pour des raisons géopolitiques qu'il serait long d'analyser ici, était et sont partisans de l'intégration de la Turquie. Et ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que le non n'est pas une victoire définitive, puisqu'avec une impudence absolument extraordinaire, ceux qui ont prôné le oui, tout simplement disent qu'il faut donc reprendre sa respiration et poursuivre le cours, parce que la démocratie ne les intéresse que lorsqu'elle est conforme à leur secrète religion, et nous touchons là au vice fondamental du système que nous analyserons, Serge de Beketch, vous, Jeanne Smith, Daoudal, quelques autres, notamment dans nos journées de la fin du mois d'août à Orange. Le non a tout simplement marqué un palier, mais sur la question de la Turquie. Je voudrais dire ceci, déjà à Bruxelles, les négociations ont recommencé. C'est dire avec quel mépris on considère la façon dont le peuple de France, pourtant d'une manière très nette, s'est prononcé.
Je vous arrête une seconde, je viens de voir un texte de Barroso qui voudrait marquer quand même une pause dans ces négociations. Il est bien obligé, au moins verbalement, de tenir compte du nom.
Oui, mais d'accord, mais enfin...
Mais verbalement, je
mais
dis bien.
Des réunions ont déjà eu lieu à Bruxelles la semaine dernière. Alors, ce que je veux exprimer ici, c'est que la lutte contre cette Europe-là doit continuer. Il n'y a pas de contradiction avec le refus de la Turquie par ailleurs. Nous avons une autre conception de l'Europe, mais quoi qu'il en soit, nous ne voulons de la Turquie dans aucune des Europes, soit celle que nous combattons et où la Turquie est programmée, soit celle que nous souhaiterions, c'est un autre débat que nous aurons, nous répondrons, nous répliquerons sur le sujet. Voilà pourquoi Richard Haddad a eu la gentillesse d'éditer le discours que nous avons tenu à Marseille, à Notre-Dame de la Garde et ici à Paris devant l'ambassade de Turquie sur le génocide des chrétiens d'Orient. Je dois dire que j'ai été peiné d'ailleurs pendant cette campagne pour le non au référendum que nous ayons été les seuls, mais nous en avons la satisfaction, à Chrétienté Solidarité, à la DRIF, à manifester très clairement notre opposition à l'entrée de la Turquie par une manifestation de rue. Bon, d'autres étaient contre l'entrée de la Turquie, c'est une affaire entendue, mais pour le dire avec vigueur devant l'ambassade, sans avoir quelque complexe que ce soit par rapport aux considérations diplomatiques, nous étions seuls. Richard Haddad, un petit mot sur le sujet, sur la politique. Vous aviez des répliques à donner.
Rapide, oui, comme ça, parce que je regarde aussi, comme vous tous, beaucoup la télévision, les déclarations, les critiques. Et puis j'ai relevé quelques petites phrases, quelques pics comme ça. Alors évidemment, comme Philippe de Villiers commence à briller, puis on voit en lui un peu quelqu'un qui monte dans les milieux nationaux, il radicalise un peu son discours. Alors évidemment, on veut tout de suite le mouiller, comme on dit. Alors il a sorti à plusieurs reprises une phrase une citation. Le pays légal, le pays réel, tout le monde connaît. Alors évidemment, un de ses journalistes télé a dû fouiller, voir dans sa bibliothèque, puis s'est rendu compte que c'était une phrase de Maurras. Alors évidemment, on dit Philippe de Villiers cite le collabo Maurras. Alors il cite une phrase de Charles Maurras. Et pour ceux, évidemment, qui ne connaissent pas Charles Maurras, il précise « collaborateur de la Deuxième Guerre mondiale ». Alors, là, il y a de quoi répliquer, parce que je ne vois pas en quoi Charles Maurras a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Doit-on rappeler, alors, moi, j'invite les auditeurs qui s'intéressent au sujet à voir le très bon article sur Charles Maurras dans le dictionnaire de la réplique. Et puis, il y a d'autres ouvrages. Il y a l'ouvrage de Maître Wagner, Maurras en justice, aux éditions Clovis. Il y a le très récent livre de Pierre Pugeot qui s'appelle L'autre résistance, l'action française sous l'occupation, aux éditions Godefroy de Bouillon. Il y a La vie de Maurras de Yves Chiron, une biographique de toujours aux éditions Godefroy de Bouillon qui était chez aux éditions Perrin dans le temps. Mais enfin, tout ça pour dire que le premier acte de résistance en 1940, c'était les militants de l'action française. La manchette de l'action française sous l'occupation, c'était la France seule. Enfin, et j'en passe, je ne sais pas si d'autres, voilà, très rapidement.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la dialectique pays légal, pays réel, c'est pas une phrase de Maurras, oui. C'est un outil d'analyse admirable qui vaut toujours. Et d'ailleurs, lorsque Radio Courtoisie exprime ce qu'elle est, la libre radio du pays réel, ça n'est pas pour rien. Absolument. Et je crois que de même que les États confédérés, mais je n'aborderai pas cela ici, c'est une question très complexe et qui exige beaucoup de finesse dans le développement, mais cette dialectique du pays légal, pays réel a largement débordé les milieux maurrassiens. Il faut toute la nullité intellectuelle de ces journalistes de télévision, de celui-là en tout cas, pour aller s'émouvoir ainsi que Philippe de Villiers reprenne ce qui est l'évidence. Il y a eu dans ce non au référendum, l'illustration, je crois, quand même la plus magistrale qui soit, après la Seconde Guerre mondiale, de ce que le pays réel renaît toujours. Parce que c'est quand même cela qui s'est produit. Le pays légal voulait le oui. Nous entendons par pays légal ce que Maurras disait. L'État, les administrations, tout ce qui est finalement mis en place artificiellement contre le fonctionnement naturel, le fonctionnement organique d'une société. Et on en a vu se dresser là dans les politiciens, les arrière-boutiques de la politique, c'est-à-dire là où s'élabore la pensée politique, parce qu'il faut bien qu'elle s'élabore quelque part. Alors comme les députés n'ont pas le temps, ce n'est pas à la Chambre des députés ni au Sénat que s'élabore la pensée politique. On sait où elle s'élabore. Il le réaffirme sans arrêt, c'est dans les loges maçonniques. Comme le disait un grand maître du Grand Orient, pas une loi sous la Ve République, pas une loi importante qui n'ait été élaborée par nos soins. Alors, qu'on le veuille ou non, le projet maçonnique global, même si certaines loges faisaient semblant de dire on ne choisit pas entre le oui et le non, le projet politique global de la maçonnerie est mondialiste. C'est un projet mondialiste et l'Europe que nous combattons, ce n'est que le palier vers le mondialisme. Et de là, l'importance de la Turquie. Et voilà pourquoi nous avons voulu d'ailleurs mettre en avant, dans ce petit livre, le génocide des chrétiens d'Orient. À nous commander, ça n'est pas cher, c'est pas pour faire de la réclame que nous faisons cela, mais vous trouverez dans ce petit livre des choses qui jusqu'à présent n'ont pas été beaucoup diffusées dans ce qui avait trait à la question turque. Ce qui n'a pas été beaucoup diffusé, que nous devons à nos amis arméniens, notamment du cercle culturel du Caucase, c'est par qui a été fait le génocide arménien. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que les jeunes turcs qui apparaissaient comme des libéraux, comme en quelque sorte des dorobiens, comme des esprits modernes, comme des laïcs, ces jeunes turcs étaient fanatiquement nationalistes, mais ils étaient fanatiquement francs-maçons. Et en lisant les écrits du cercle des éditeurs du cercle culturel du Caucase, j'ai découvert avec stupéfaction un certain nombre de choses. Alors voilà pourquoi, sur le non au référendum, pays légal, pays réel, victoire du pays réel contre le secret projet d'élaboration mondialiste de l'humanité. C'est donc une gigantesque défaite. Et j'ajouterai aussi qu'il ne faut pas opposer le nom national et le nom social. Cela, c'est ça serait une grave erreur aussi, parce que quand on est national, on est forcément social. Quand on aime son pays, quand on est patriote, on ne peut pas accepter qu'il y ait des ouvriers au chômage comme ils le sont aujourd'hui, qu'il y ait des désespérés comme il y a trop de jeunes aujourd'hui qui sont les échoués en quelque sorte de la fausse éducation faussement nationale. Voilà pourquoi je crois que cette victoire du non, il faut l'analyser comme avant tout une victoire du pays réel. Ça n'est pas une victoire de droite, ça n'est pas une victoire de gauche, c'est une victoire du pays réel, même si la gauche croit le récupérer fondamentalement, c'est un non national. Daoudal.
Oui, et on voit ça que s'aggraver de jour en jour, parce qu'il y a eu l'échec du sommet de Bruxelles, et après cet échec du sommet de Bruxelles, on voit les hommes politiques européens, suivis par tous les commentateurs, quasiment tous les commentateurs de la presse, expliquer que désormais le débat se situe entre une Europe politique intégrée, l'Europe politique, et l'Europe libérale du grand marché. Alors, c'était après le sommet, parce que, évidemment, le méchant Tony Blair, c'est le tenant de la seconde conception, c'est l'Europe supermarché, alors que les dirigeants vertueux français ou allemands sont pour la première conception une Europe politique, une vraie Europe politique qui protège la population, etc. Alors, c'est une fois de plus montrer qu'on tient pour nul et non avenu le référendum français et le référendum néerlandais, pour nul et non avenu tous les noms des autres peuples qui n'arrêtent pas de monter à travers les sondages. Parce que les gens ont dit non, le peuple réel, la France réelle, les nations ont dit non. Ils ont dit non à quoi? Ils ont dit non à la Constitution européenne, au projet de Constitution européenne qu'on leur présentait. Et on fait comme s'ils n'avaient rien fait. Ils ont dit non à la Constitution européenne, l'Europe politique, est-ce qu'il y a une autre Europe politique que l'Europe de la Constitution européenne? C'est bien ça qu'on nous proposait comme Europe politique, une Europe politique intégrée, une Constitution européenne qui renforce des pouvoirs centraux, qui une Europe qui parle d'une seule voix sur le plan diplomatique, une Europe qui a un président pendant un certain temps, etc. C'était bien ça l'Europe politique. Or, les gens ont dit non à cette Europe politique. Donc, il y a personne ne devrait pouvoir défendre cette Europe politique à Bruxelles. Quant à l'Europe libérale du grand marché, eh bien, les gens ont dit non aussi à cette Europe-là, pour la bonne raison que cette Europe-là, c'est aussi celle de la Constitution européenne. La Constitution européenne qui sanctuarise le libéralisme économique. Un libéralisme sans frontières intérieures de l'Union européenne, sans frontières extérieures à l'Union européenne. Les gens ont dit non à l'Europe politique de Chirac et de Schröder. Ils ont dit non à l'Europe libérale de Blair. Voilà. Donc le débat ne se situe absolument pas là. Le débat se situe entre cette Europe bureaucratique à la fois politique et libérale et l'Europe des nations, et ce sont les nations qui ont dit non.
Jeanne.
Sur ce sujet, j'ai déjà dit. Est-ce qu'on change un petit peu de sujet?
Oui, mais bien entendu, avez d'autres répliques que vous avez préparées.
Il y a un journal qui m'énerve beaucoup, c'est pas bien, c'est le Figaro. Parce que le Figaro, parfois, fait des articles qui sont tout à fait intéressants, tout à fait dans notre ligne, qui me correspondent, si vous voulez. Et puis, le jour d'après, vous aurez l'article inverse. Et j'ai été assez irritée, je vous dirais, par le compte-rendu de la grande marche pour la famille qui a eu lieu en Espagne. Ce compte-rendu a apparu sous le titre « Plus de 160 000 personnes défilent à Madrid ». Alors ça, comme désinformation, c'est extraordinaire, c'est à peu près 10% de la réalité. Si on prenait la peine de regarder un petit peu une chaîne espagnole, on pouvait voir que c'était extraordinairement plus que cela, beaucoup plus en tout cas que les 300 000 fans du Real Madrid qui se sont réunis sur un petit secteur de ce parcours il y a quelques mois et qu'on a donc bien dénombré à 300 000. Là, le parcours rempli par cette brève mais percutante manifestation, contenait bien évidemment au moins 1 million de personnes. Et j'ai constaté comment le Figaro a rendu compte de tout cela de façon tout à fait en deçà de ce qui pouvait être fait, sans tenir compte de la réalité et de la force de cette manif qui ne s'est pas bornée à protester contre la légalisation du mariage homosexuel, encore qu'elle l'ait fait avec beaucoup de vigueur. Elle a aussi protesté contre toutes les atteintes à la vie, en demandant le respect de la vie, la protection de la vraie famille, un homme, une femme, et puis, si le bon Dieu les donne, des enfants. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une désinformation par omission. Et dans le même temps, le Monde du 20 juin, c'est-à-dire le Monde de lundi, rendait compte de la manif pour la famille et contre le mariage homosexuel qui a eu lieu en Pologne, sous ce petit titre. En Pologne, l'extrême droite, bien sûr l'extrême droite, mobilise ses troupes homophobes, bien entendu homophobes, dans les rues de Varsovie, pour la parade de la normalité. Alors, cet article est un petit chef-d'œuvre ciselé d'attaques sournoises, avec la présentation de Roman Giertych qui a mené tout cela pour la Ligue des familles polonaises. On a des tas de détails sur les skinheads qui sont présents. Bon, tout ça a été, on le sait, tout à fait marginal. Et le venin est dans la queue. L'article du Monde note que la manif a été autorisée par le maire conservateur de Varsovie, l'un des favoris aux élections d'octobre, ça c'est pour faire peur, et qui a été, qui plus est, grand ordonnateur des messes à la mémoire de Jean-Paul II. C'est quand même l'horreur absolue que ce maire de Varsovie, qui a osé laisser défendre la famille et qui a fait un crime supplémentaire, il a même interdit la Gay Pride à Varsovie. On déménage ?
Serge voulait intervenir.
Oui, je voulais dire, c'est curieusement, quand on parle du Figaro, dans nos milieux, on est toujours un peu gêné. On dit, ah, le Figaro, il y a de bonnes choses, le Figaro, ceci. Bon, mais alors là, franchement, moi, je trouve que le Figaro est véritablement le quotidien le plus nocif qui paraisse en France, pour une raison très simple, c'est justement parce que c'est le Figaro. Il faut savoir que les dirigeants du Figaro sont à 90% francs-maçons et que les rédacteurs du Figaro sont à 90% trotskistes. Donc c'est un journal qui est dirigé par des francs-macs, rédigé par des trotskistes et lu par des bourgeois. C'est quand même un compendium assez formidable. Et aussi bien quand ce genre d'information est donné dans Libération, tout le monde s'en fout parce qu'on sait que c'est Libé. Mais quand c'est donné dans Figaro, ça donne une espèce de vernis de choses élégantes et acceptables, et ça devient quelque chose de terrible. Quant au Monde, une fois de plus, on retombe l'éternel problème, c'est que les articles du Monde ne sont recevables que par des gens qui ne savent rien. Parce que si on fait l'effort de les lire avec un peu d'attention comme vous l'avez fait, on voit la queue du diable, on voit la queue pointue du diable à chaque ligne. Et on voit bien qu'ils nous mentent. Mais ils sont là pour ça. Et ils sont là pour ériger une espèce de vérité obligatoire sur un ton à la fois de componction, de vagues menaces et de prétention qui est intolérable.
Alors, nous avons des questions, on ne pourra pas toutes les traiter, mais enfin, on va en choisir. L'une approuve les propos de Richard Haddad et appuyée par Jeanne Smith et Daoudal sur la question de la musique techno, nous disant pourquoi pas d'autres musiques. Effectivement, il y a d'autres musiques, hein, et je pense que l'on peut entraîner des foules. Et puis, quand il s'agit de manifestations, on peut comprendre, il peut y en avoir de très belles avec toutes sortes de musiques.
Et on peut la faire soi-même, la musique.
Oui, mais faut-il rappeler peut-être, puisque l'auditeur parle de musique, que nous venons de rééditer le livre de chant du Centre Charlier, Chant de France et de Chrétienté, dans lequel on trouve quantité de chants traditionnels français. Et c'est de nouveau disponible depuis quelques semaines.
Oui, alors j'ai deux questions, une de pure forme. Où peut-on se procurer le dictionnaire de la réplique ? Eh bien, au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain. Et d'ailleurs, je me ferai un plaisir de le signer aux auditeurs s'ils peuvent passer demain matin et après-demain matin, avant que je ne m'en aille pour une tournée de conférences en Alsace.
Précisez, Bernard, 75 005 Paris, car beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie habitent loin.
Voilà, c'est vrai. Pour toi, les francs-maçons, pour se débarrasser de l'Église catholique, font-ils la promotion de l'islam qui est une machine de guerre ? Il y a la réponse dans la question. C'est une vieille histoire, elle méritera d'être traitée aussi. sur le fond un jour. Je crois que nous avançons dans notre élaboration du dictionnaire de la réplique. C'est une vieille attitude maçonnique, effectivement, qui a consisté dans tout notre empire colonial à privilégier la mosquée aux dépens de l'Église. Le père de Foucault voyait à quoi cela conduirait. Ces peuples seront chrétiens ou nous chasserons. Nous avions des résidents généraux en Tunisie, au Maroc, comme Pérouton, c'est intéressant, qui étaient des hommes importants du Grand Orient de France. Et la même attitude, au fond, a continué sur notre propre sol. Il y a une volonté de bâtir la mosquée, avec en général une ignorance de l'islam qui est dramatique, et qui est dramatique à peu près dans tous les partis politique. Je ne connais guère de responsable politique qui ait comme bon goût, puisque après tout il y a des millions de nos concitoyens qui sont des musulmans, de savoir quel était le livre qui déterminait leur vie. Ils ne savent rien du Coran, et d'où des surprises aujourd'hui et des contradictions que nous nous plaisons à relever. Daouda Lana, relevez une, je lui passe la parole.
C'est sur ce sujet-là. C'est pas seulement les francs-maçons en tant que tels, c'est que c'est toute la gauche et l'extrême gauche qui favorisent l'islam. Et ça, c'est parce que la subversion cherche des alliés pour la subversion toujours. Et notamment les communistes et les crypto-communistes et les archéo-communistes qui, en très grosse perte de vitesse, ont cherché des alliés, ont cherché des troupes, et ils ont trouvé ces troupes dans l'islam. D'où, par exemple, l'invitation faite à Tariq Ramadan de parler au grand truc, au forum social européen quand il s'est déroulé à Paris. C'est Tariq Ramadan qui était la grande vedette parce que il représente la nouvelle subversion de notre époque, et ils s'imaginent qu'ils vont se servir de l'islam comme d'une masse de manœuvre, comme les communistes se servaient du prolétariat. Et ils se rendent pas compte, ils savent pas, ils veulent pas savoir d'ailleurs, que l'islam est beaucoup plus fort qu'eux en fait, et que c'est l'islam qui est en train de se servir d'eux, et que c'est l'islam qui va régner et non pas la subversion d'attaques, etc.
Mais il est à noter que l'on ne condamne pas, que les tribunaux n'ont pas condamné, c'est sur quoi vous deviez intervenir, cher Yves, l'imam de Vénissieux qui conseillait de battre sa femme, ce qui n'est peut-être point, après tout, quelque chose de scandaleux pour ses fidèles musulmans, mais les tribunaux ont tranché en sa faveur contre le gouvernement français, considérant qu'il ne faisait que dire ce qu'il y avait dans le Coran. Voilà. Et voilà, je crois, quelque chose qui doit faire méditer.
Et oui, c'était Dominique Perben, garde des Sceaux, qui avait absolument voulu poursuivre l'imam Bouziane, alors que le parquet de Lyon avait dit « il n'y a rien à poursuivre ». Perben avait ordonné au parquet de poursuivre, et il avait expulsé l'imam Bouziane, expulsé deux fois de suite, parce qu'une première fois ça avait été suspendu, il avait réussi à faire lever la suspension, donc il avait été expulsé de nouveau. Et le tribunal a simplement constaté que Abdelkader Bouziane n'avait fait que dire ce qu'il y avait dans le Coran, et qu'il n'appartient pas au tribunal de juger ce qu'il y a dans le Coran.
Le retour, hélas, oui.
Deux questions d'auditeurs. Oui. Que pensez-vous de la phrase de Ségolène Royal? On se rapproche des Américains pour avoir un gouvernement mondial. Et une autre, que pensez-vous de M. Drobien qui, après avoir inspiré les 35 heures Mme Aubry, lire la Dame des 35 heures, n'a pas voulu du service minimum dans les transports, préférant discuter avec les syndicats, et qui maintenant aurait suspendu la dernière loi Fillon et défendu ce sujet inique du baccalauréat?
Oui, bah écoutez, nous avons dit ce que nous pensions de Monsieur de Robien, c'est extrêmement sévère. On ne peut pas maintenant, avec les secondes qui nous restent, commenter la question des 35 heures, mais je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir la fois prochaine. Pour ce qui est de Ségolène Royal, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas peur des contradictions, hein, mais après tout, si elle dénonce l'éventualité d'un gouvernement mondial, bienvenue Ségolène. Nous l'inviterons à la prochaine réunion de la réplique.
C'est comme l'imam Bouziane. Ils font le même travail. Mais ils disent, voilà la vérité. Exactement. L'islam permet de battre sa femme et il faut se rapprocher des Américains pour un gouvernement mondial. Donc, merci à Madame Bouziane Royal, non, à Madame Ségolène Royal et à Monsieur.
Alors là, Bouziane. Quelque chose que je ne peux pas laisser passer, c'est une constatation, elle mériterait une explication. L'islam résiste au communisme, ce qui n'est pas le cas du christianisme. Ça n'est pas vrai. Qu'il y ait eu une crise de l'Église et de la chrétienté en général autour de cette table, nous le savons bien. Mais je pourrais vous dire que nous ici, qui représentons après tout, je crois, une résistance chrétienne, eh bien nous sommes à l'extrême pointe de la résistance contre l'islam. Et nous en parlerons plus avant la prochaine fois. Merci à l'auditeur qui nous invite à traiter de ce sujet plus longuement.
Et merci à Bernard d'avoir animé si brillamment, c'est pour une première, c'est une réussite, je trouve, cette émission de la réplique. Merci à John Smith, que j'ai toujours un immense plaisir à voir. Merci à Richard Haddad. Merci à Daoudal, que je vois pas assez souvent à mon goût, mais qui est un garçon tellement discret qu'on a toujours scrupule à le déranger.
Mais je le kidnapperai pour la prochaine émission. Hein.
Et puis, je crois qu'il y a des annonces à faire, chère Victoria. Oui.
La dernière distribution pour la saison 2004-2005 par l'association Solidarité des Français de la soupe populaire au cochon aura lieu le jeudi 23 juin à l'endroit habituel et comme toutes les semaines sur le parvis de la gare Montparnasse à partir de 20h. Les organisateurs seraient très heureux, les bénévoles et les bénéficiaires, de partager le verre de l'amitié avec les auditeurs de Radio Courtoisie et les remercier pour le soutien qu'ils ont apporté.
Vous pouvez répéter le lieu et l'heure parce que ça m'a échappé.
Alors, le lieu, c'est le jeudi, la date, c'est le jeudi 23 juin et comme d'habitude, le parvis de la gare Montparnasse et c'est à partir de 20h. Voilà. Et puis, au Forum de la France chrétienne, André Giovanni, philosophe, poète, écrivain, directeur fondateur de Santé Magazine, parlera sur le thème « Le goût de la vérité » le vendredi 24 juin à 20h30 précise chez Marie-Noël Tranchant, journaliste au Figaro. Buffet à portée boisson, messieurs, nourriture terrestre d'âme, inscription 0-871-044-006. Samedi prochain, 25 juin, de 15h à 18h30, Marina Tchebourkina, c'est parti, dédicacera l'œuvre intégrale pour orgue de Louis Marchand, double CD enregistré sur les grandes orgues de la Chapelle Royale de Versailles.
Magnifique.
C'est à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le Forum de la France chrétienne, toujours à l'initiative d'Anne Brassier, recevra le mercredi 29 juin à 20h dans les salons Saint-François-Xavier, 7 rue de Poitiers, Paris 7e, Vladimir Chevel, violoncelle, dans un récital Jean-Sébastien Bach. Participation au buffet comme d'habitude, libre participation aux frais, inscription 0871-044-006.
Et puis il y a une annonce à faire du.
Voilà. C'est pas très. Septembre.
Ah oui. Annoncez-la tout de suite quand même.
Oui. Je la fais à la fin de septembre.
Voilà.
Alors, oui. Je rappelle l'inauguration le 6 juillet à 9h30 à Marignane d'une stèle à la mémoire des soldats français morts en Algérie. Et il y aura une messe le 7 juillet à la chapelle des armées de Versailles et au cimetière à 11h sur la tombe de Roger de Gueldre au cimetière de Versailles. Voilà. Et puis, à retenir d'ores et déjà, le dimanche 18 septembre, au château de Grand Maison à Villepreux, la grande journée du Centre Charlier et de Chrétienté Solidarité. Ça va commencer à 11h par une messe catholique traditionnelle latine et grégorienne, se continuer à 12h30 par un pique-nique familial tiré du sac. On vous donne tout le détail. Et à 16h, allocution et discours final de Bernard Anthony.
Merci.
Merci encore Bernard Messic, merci Victoria, merci aux auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous supporter. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont pu trouver que la première partie de l'émission était un petit peu, comment dirais-je, plus
difficile.
Et difficile à la fois. En réalité, c'est pas difficile du tout. Je suis obligé de vous supplier de vous intéresser à cette question qui est essentielle pour la compréhension du monde qui nous entoure. Donc, on refera une émission dans quelques temps sur ce discernement des inférences, même si ça doit déplaire à quelqu'un. Et je signale que les inférences, c'est bien dans le dictionnaire. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée.